dans le cœur des saints. Alors, ça fait suite au Concile Vatican II, où le mot évangélisation apparaît 150 fois. Donc, vous voyez, c'est comme dans les préoccupations de notre temps, quoi. Le besoin d'évangéliser ou de toujours réévangéliser. Et cette exhortation apparaît avec le deuxième anniversaire du Concile et la troisième assemblée générale des évêques. Alors, il s'agit d'un dialogue de Paul VI qui est ponctué par 40 questions. Alors, je vais commencer d'abord pour vous donner un peu, même si c'est un peu fastidieux, volontairement. Alors, si j'avais fait attention à ce coup-là, moi, je... Les 40 questions qui se posent, alors on va en reprendre quelques-unes, mais je vais vous donner juste rapidement, c'est juste pour vous donner une petite vision de ce que ça peut représenter.
Vous nous donnerez par Pierre.
Si vous le voulez, oui. Le plan de l'exhortation. Donc ça commence, et ce n'est pas la partie la plus négligeable, je vous dirai pourquoi, sur l'encouragement particulier à l'évangélisation. Le Christ, hein, l'évangélisation repose d'abord sur le Christ. C'est lui qui est évangélisateur. Et je dirais la conséquence immédiate de ça, c'est que c'est l'Église qui est évangélisatrice puisqu'elle est son corps. Ce qu'on dit du Christ, on le dit de l'Église, ça c'est essentiel. Ce qu'on dit du Christ, on le dit de l'Église. Il me semble que c'est important de toujours lier l'essence et la nature même de l'évangélisation à le Christ qui est tête. Et donc, la tête essaie de faire vivre le corps, en espérant que la tête suive et qu'elle ne soit pas trop décapitée, et que le corps ne se mette pas à faire ce qu'il veut de son côté. C'est ça le problème. Donc il y a un témoignage et mission de Jésus. Je vais vous donner, dans le Christ évangélateur, Jésus est témoin, et il est témoin dans sa mission. Il est le premier évangélisateur. Tout de suite, vous voyez, on situe. Il annonce le règne de Dieu. Et on n'est pas là pour... on a souvent une vision dans l'évangélisation qui était très narcissique aujourd'hui, très individualiste, où le Christ serait là pour notre épanouissement. Mais ce n'est pas du tout comme ça. Le Christ se situe et le Christ nous annonce. Il vient annoncer justement quelque chose qui le dépasse. Le règne de Dieu, il est pour nous, mais il n'est pas, je dirais, en adéquation avec ce que nous sommes. Il le dépasse. Moi, ça me paraît essentiel. Vous verrez pourquoi je vous dis ça après. L'annonce du salut, au prix d'un effort crucifiant, oui, on n'a pas peur de dire des choses. Un prédicateur infatigable avec des signes évangéliques. Pour une communauté évangélisée et évangélisatrice, l'évangélisation est la vocation propre de l'Église, puisque le Christ, dans sa nature, est évangélisateur. Il y a un réciproque entre l'Église et l'évangélisation. L'Église est inséparable du Christ. Donc ça, c'est la deuxième grande réflexion. Après, le Saint-Père va s'interroger sur qu'est-ce qu'évangéliser. En manifestant d'abord que c'est complexe, que ça implique un renouvellement de l'humanité, qu'il y a des zones d'humanité, donc on ne peut pas évangéliser partout de la même manière, qu'il y a une évangélisation des cultures, qu'il y a une importance primordiale du témoignage de vie, c'est essentiel ça, qu'il y a une nécessité d'une annonce explicite. C'est parce qu'on est dans une époque où on a vu, moi j'ai vécu ça, moi qui ai vécu longtemps en Amérique latine, où il y avait cette idée du grain tombé dans terre, quoi. Mais les missionnaires, ils sont tellement tombés en terre que le grain a disparu, quoi. Et donc là, c'est un contexte historique aussi, c'est que le Saint-Père rappelle qu'on est dans une évangélisation qui, à un moment, doit être explicite. Parce que la théologie de la libération, qui s'est développée beaucoup, surtout en Amérique latine, a beaucoup manifesté qu'il fallait, vous voyez, s'enfouir. Mais à un moment, on s'en fout tellement qu'on disparaît, quoi. Donc là, on parle d'explicitation.
C'est quoi la théorie de la libéralisation ?
La théorie de la libération, c'est une vision marxiste de la théologie. Toutes les erreurs en théologie, toutes les hérésies, toutes. Je crois que toutes les hérésies sont fondées sur une vision philosophique. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, quand Dieu a parlé à l'homme... Il n'a pas utilisé un autre langage que le langage humain. On est d'accord là-dessus. Le lego, la matière qui sert à parler pour Dieu, c'est la parole humaine.
quand Dieu dit qu'il est père, et bien si on a une vision freudienne de la paternité, ben on va introduire cette vision dans la vision de Dieu. Donc, la parole de Dieu, elle parle dans un langage humain. Donc, si notre vie, notre conception de la parole de Dieu est enracinée dans une vision de la parole humaine qui est biaisée, notre vision de la parole de Dieu est biaisée. Vous comprenez ? C'est essentiel de comprendre ça. Comme la parole de Dieu parle en langage humain, si mes concepts humains sont faux, je vais nécessairement transmettre cette fausseté dans ma vision théologique, qui est l'intelligence de la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair, ça ? Ça va ou pas ?
Oui, mais ça ne répond pas forcément à la...
Si, alors je vais y venir. Et l'atelier de libération, donc c'est la lecture de la parole de Dieu, c'est une intelligence de la parole de Dieu à partir d'une certaine vision du monde, qui est la vision marxiste. La théologie de la libération, c'est une vision, une lecture marxiste, conceptuelle de l'homme, qu'on transpose dans la parole de Dieu.
C'est-à-dire qu'on utilise les textes de la parole de Dieu pour...
C'est-à-dire qu'on se sert des concepts marxistes,
oui.
Et on transpose cette vision conceptuelle. La grande conception marxiste, c'est la dialectique entre l'homme, le prolétaire et le bourgeois. Il y a une opposition entre le prolétaire et le bourgeois. Et cette vision dialectique de l'homme, elle est transportée dans la parole de Dieu. Par exemple, il faudra aider les pauvres, mais certains pauvres. Ça, c'est une vision marxiste de la parole de Dieu. On a une vision biaisée du pauvre, dialectique. Et donc, si l'Église veut être proche des pauvres, elle est pauvre, elle est proche d'un certain prolétariat. Ça, c'est une vision de la libération et de la justice dans la libération. Le fond du problème, c'est qu'on a une vision dialectique de l'homme, on oppose le bourgeois et le prolo. Et cette vision-là, on la transmet, ça c'est Marx, et on la transmet dans la parole de Dieu, donc il faut aider les pauvres, mais on a une vision biaisée du pauvre.
Et qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple ?
Ben, pour le marxisme ?
Non, pour autre, parce que là c'est la théologie de la libération, mais est-ce qu'il y a d'autres hérésies ?
Ah ben il y en a plein, par exemple, on peut prendre l'exemple du jansénisme. C'est une vision qui manifeste qu'on sauve l'homme, que l'homme se sauve par un sacrifice, une certaine souffrance. C'est pas l'amour qui sauve, et c'est pas le Christ. C'est pour ça que la vision janséniste pense qu'il y a très peu d'élus, leur Christ sera toujours présenté les bras comme ça. Et donc le jansénisme qui est la plus vieille hérésie, la plus longue hérésie dans l'histoire de l'Église, c'est la plus longue. Parce qu'elle marquera, même encore aujourd'hui, il y a des tendances parfois un peu à l'hérésie janséniste. C'est une vision en fait où le salut s'opère par le sacrifice et par la souffrance. Ça, c'est pas chrétien. C'est très ancré dans l'Église.
Mais comment on fait pour distinguer ce qui va être. Comme quoi on aurait un langage humain qui serait biaisé ? Comment est-ce qu'on peut se reconnaître ?
Ça, c'est un travail de l'intelligence. C'est un travail de l'intelligence.
Oui.
Enfin, c'est pas facile de se libérer des hérésies.
Ça veut dire qu'on peut en faire beaucoup des hérésies.
Ah, mais bien sûr.
Mais c'est pour ça qu'on est en Église. C'est la grande chance de notre catéchisme, c'est qu'on a des garde-fous qui fait qu'il y a une communauté qui a réfléchi avant nous. Et quand on a une question, on se doit d'aller chercher dans la communauté de l'Église qui a réfléchi avant nous. Et donc, pour affiner notre réflexion et pour ne pas partir dans des choses...
Votre question, elle est très intéressante et elle repose dans le premier article du catéchisme de l'Église catholique. Le premier article, pas le premier, le second, le premier. L'intelligence humaine, dit le premier article du catéchisme de l'Église catholique, a la capacité au vrai. C'est-à-dire que l'intelligence est capable de découvrir que Dieu existe. C'est-à-dire que l'intelligence est capable de dire la vérité. Alors on peut tous se tromper, saint Thomas dira, on se trompe parce qu'on est feignant, parce qu'on ne travaille pas assez, etc. Ça c'est dans l'exercice. Par contre, votre intelligence, quand elle atteint le vrai, elle ne se trompe pas. C'est pour ça aussi que vous pouvez vous confesser. Parce que vous êtes capable de faire la vérité dans votre vie. Et ça c'est naturel. C'est pas théorique, c'est naturel.
Elle doit être un peu éduquée.
Oui, mais malgré tout, elle a cette capacité.
Cette attirance.
Voilà. Elle est attirée par le vrai et elle se nourrit que du vrai. Notre agence se nourrit profondément que du vrai. Tant qu'on ne touche pas le vrai, on voit bien qu'il y a quelque chose chez nous qui n'est pas satisfait et qui va le chercher ailleurs. Et ça, c'est essentiel. Et c'est le premier article du catéchisme et c'est le socle sur tout est fondé. On est capable d'être vrai jusqu'à aller à la découverte de Dieu par la capacité humaine de l'intelligence. La question de l'existence de Dieu, c'est une question de foi. C'est une question d'intelligence. Ça, c'est un principe qui est très rejeté aujourd'hui. J'avance parce qu'on est peu dans l'introduction. Le contenu de l'évangélisation est un contenu essentiel. Je passe parce qu'on va revenir là-dessus après. Au centre du message, le salut en Jésus-Christ, c'est ça qui est essentiel, c'est le salut, quoi. Sous le signe de l'espérance, c'est un message qui concerne toute la vie, c'est un message qui nous libère, qui promeut l'homme, sans réduction ni ambiguïté, c'est une libération évangélique qui nous fait accéder au royaume, sur une vision évangélique de l'homme, qui implique une conversion, qui exclut la violence, avec une contribution spécifique de l'Église et qui implique la liberté religieuse. Donc, je passe, parce qu'on va y revenir, l'évangélisation, les moyens, le témoignage, la prédication, la liturgie de la parole, la catéchèse, les masses médias, le rôle des sacrements, la piété populaire, les destinataires à qui on parle. Il y a une destination universelle, malgré tous les obstacles, il y a une première annonce, annonce au monde déchristianisé, les religions non chrétiennes, le soutien de la foi, le non-croyant, le non-pratiquant, au cœur des masses, les comités ecclésiales de base, les ouvriers, les églises, qui est un acte ecclésial, la perspective de l'Église universelle, de l'Église particulière, l'adaptation à la fidélité du langage, l'ouverture à l'Église universelle, le dépôt de la foi, c'est juste ce qu'on reçoit, hein, ces différentes tâches, le successeur de Pierre, les religieux laïcs, la famille, les jeunes, les ministères diversifiés. L'esprit de l'évangélisation, le pressant appel, le souffle de l'Esprit Saint, c'est tous les thèmes que Saint-Père va aborder. Animé par l'amour, la ferveur des saints, et voilà, la consigne de l'année sainte qu'il doit proposer en 75, et Marie, étoile de l'évangélisation. Voilà. Alors, dans la méthodologie, voilà, il me semble qu'il faut d'abord commencer par un commentaire des deux premiers chapitres, on va y venir, pour entrer plus profondément dans la nouveauté que représente ce texte, dans ce qu'est l'évangélisation. Et le Saint-Père, là, il dit deux choses. Il dit « Laissez-vous réconcilier avec le Christ, revêtez-vous de l'homme nouveau. » Vous voyez, il y a « Laissez-vous et revêtez-vous. » Ça paraît rien, c'est la première phrase, mais elle est essentielle. Il y a une action passive et une action active. « Laissez-vous, revêtez-vous. » Le fait de se revêtir, c'est l'action même baptismale par excellence. Au moment où le prêtre, après avoir baptisé, il revêt la personne baptisée en blanc. C'est ça, normalement, la liturgie. Et au moment où il pose la Bible blanche, il manifeste que cette personne a été baptisée, donc elle est habitée par le Christ, elle est revêtue du Christ, on pose la Bible blanche. Revêtez-vous du Christ, gardez ce vêtement blanc, sans tache jusqu'à la vie éternelle. On se revêt. Donc, ce qui veut dire que dans l'évangélisation, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que la première chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on subit. Souvent, on parle, quand on fait venir des témoins, ils nous parlent de leur conversion, il y a quelque chose qui est venu les habiter. L'évangélisation ne consiste pas à parler de nous, on s'en fout, je dirais, mais de parler du Christ. Et du Christ sauveur, qui nous invite à aller vers un monde, un règne, le règne de Dieu. Vous savez, on fait beaucoup de reproches à l'Église depuis, allez, on va dire 200 ans, ou un peu moins, d'avoir abandonné dans sa prédication ce qu'on appelle les fins dernières. C'est-à-dire tout ce qui touche au salut, au règne, et puis aux obstacles à ce salut, hein. Et on a fini par faire de l'Église un peu une ONG caritative et sympathique, quoi. Mais c'est pas ça dans son identité. Donc, se revêtir du Christ et laissez-vous réconcilier avec Dieu, il y a à la fois une passivité dans cette évangélisation et une activité. C'est dans la mesure où on se laisse faire, mais qu'on est aussi acteur dans notre relation avec Dieu, et c'est les deux. Alors ça, ça va revenir tout le temps. Quand on pourrait reprendre à chaque fois ce thème-là, de l'activité et de la passivité, on pourrait le reprendre à chaque fois, parce que c'est comme ça que le Père, le Saint-Père commence, et je pense que c'est très juste. Il faudrait ensuite pouvoir comprendre donc comment une démarche pastorale va trouver les moyens de vivre et faire vivre, dans un respect de chacun, cette lumière de la bonne nouvelle. Vous voyez, les moyens qu'on va regarder, vous allez mieux comprendre quand on va avancer. Mais je pose un mais. Ne pas chercher à réduire le sens et le contenu de ce texte, de l'évangélisation, pour finalement le proposer, l'adapter aux autres selon nos propres médiocrités et nos propres incapacités à le vivre. C'est ça le danger, en fait. Quand on parle d'évangélisation, le risque, c'est de ramener à nous. Et je dirais, c'est pour ça que je le dis comme ça, à nos incapacités à le vivre ou à nos médiocrités. Il y a une dimension de contemplation dans l'évangélisation qui est essentielle. Il ne s'agit pas de ramener les choses à nous, il s'agit de proposer, dans la mesure où Dieu se sert de nous aussi, cette contemplation qu'on a du mystère de Dieu. Ce n'est pas psychologique mon truc. Hein. Mais ça me paraît essentiel. Vous allez mieux comprendre quand on va avancer dans le texte où le Saint-Père va poser des questions. Et ça, je pense qu'on l'a souvent perdu en fait. On a un peu reproché, c'est pas tellement le concile, mais c'est la suite du concile, d'avoir voulu trop s'adapter.
Si vous voulez, il faut faire avancer le processus à
vous. Oui. Vous pouvez avancer un peu alors, s'il vous plaît. Vous voyez, le risque, je sais ce que je termine comme ça sur ce passage-là, c'est de diminuer la force de la parole de Dieu, parce que c'est celle du Christ au fond. Et il y a toujours un risque dans l'évangélisation, soit d'être dans une espèce de dureté de la parole qui est inadaptée au monde d'aujourd'hui, soit l'inverse, c'est-à-dire d'avoir une telle malléabilité de la parole qu'on en fait perdre son sens profond. Il faut tenir les deux. Et c'est ça qui n'est pas facile. L'évangélisation, ce n'est pas nous adapter au monde. Mais l'évangélisation, ce n'est pas proposer quelque chose avec une telle dureté que le monde ne peut pas nous recevoir. C'est ni l'un ni l'autre.
Mais comment est-ce que la parole de Dieu peut être aujourd'hui adaptée au monde?
Je pense qu'il n'y a qu'à regarder que 95% des gens n'en ont rien à foutre. Ça, c'est bien moi qu'elle est un problème d'adaptation.
D'accord, inadaptée par rapport à ce que les gens sont capables de recevoir. Mais je veux dire, elle est intemporelle et la parole de Dieu... Elle était valable dans le monde d'avant et encore valable aujourd'hui. C'est-à-dire que soit on rentre dans quelque chose où on va devenir radical vis-à-vis des autres, parce qu'on est très aimé de la parole de Dieu aujourd'hui, ou alors effectivement on éduque encore tout et puis la parole de Dieu ne peut rien dire non plus.
Alors il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par parole de Dieu ici. Oui. La parole de Dieu, elle va de la révélation de l'ancienne alliance jusqu'au Christ. Oui. Et je suis désolé, mais la parole de Dieu, quand le Christ parle, elle est très différente de ce point de vue-là. Il y a une évolution de la parole de Dieu quand le Christ parle par rapport, je ne sais pas moi, à l'ancienne alliance. Et là, le Christ est modèle. C'est-à-dire que le Christ, quand le Christ parle, quand le Christ dit par exemple « Je suis la lumière du monde », c'est bien la parole de Dieu, il donne un nouveau concept de la lumière, ce qui la renvoie à sa propre personne. Donc pour le chrétien, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », la lumière, le mot « lumière » prend un nouveau sens qui n'existait pas jusque-là. Le mot « lumière » prend un nouveau sens. Et je dirais même que la lumière de ce monde devient relative au nouveau concept que crée Jésus « Je suis la lumière ». Si Jésus a dit « Je suis la lumière », c'est qu'il l'est vraiment. Ce n'est pas métaphorique. Et si Jésus dit « Je suis la lumière », c'est un exemple de la parole de Dieu, si Jésus dit « Je suis la lumière du monde », eh bien, on peut comprendre ce qu'est la lumière du Christ en regardant la lumière de ce monde. Mais c'est pas pareil, par exemple, quand on dit, je sais pas, j'essaie de trouver un exemple simple, « Dieu est fort, je sais pas, comme la force de Dieu, qu'on la compare à un lion ou à un taureau. C'est métaphorique. C'est pas pareil de dire Dieu est comme le bras désarmé et puis de dire je suis la lumière du monde. C'est pas pareil. C'est-à-dire que ce que je voulais dire à travers ça, c'est qu'il y a dans la parole de Dieu-même, il y a une évolution. Il y a une évolution des concepts. Et à partir du Christ, eh bien, le mot lumière prend un nouveau sens qu'il n'avait pas avant Jésus. Deux mots, on pourrait dire d'une certaine manière le mot verbe. Et ça, c'est nouveau pour nous. Personne n'a utilisé le mot. Enfin, c'est pas simplement que Jésus donne un nouveau concept au mot verbe, au mot lumière. Enfin, c'est plus que ça. C'est que il lui donne, c'est une nouvelle réalité. C'est pas une nouvelle compréhension du mot. C'est une nouvelle réalité. Il est la lumière du monde. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est une nouvelle réalité. Ce n'est pas une nouvelle interprétation du mot. Donc vous voyez, ce n'est pas pareil. Le fait que le Christ s'incarne et que Jésus parle dans un langage humain comme Dieu, c'est Jésus à travers lui, c'est Dieu qui parle. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau pour nous. Le langage humain a pris un nouvel essor, pour dire ça simplement, une nouvelle dimension à partir du moment où Jésus a parlé. Parce que c'est Dieu qui parle. Et personne n'a parlé comme Jésus étant Dieu avant Jésus. Il y a une rupture là. Et donc il y a quelque chose de totalement changé dans l'évangélisation. Dans l'annonce de la bonne nouvelle, la venue du Christ qui s'incarne, qui est l'homme-Dieu, et là il y a quelque chose de propre et de nouveau, irréductible. Vous voyez ? Et ça, on ne peut pas le réduire. Mais Jésus, enfin c'est très étonnant, Jésus a su parler aux hommes de son temps en utilisant le langage humain, mais tout ce que Jésus a fait, c'est divin. Quand saint Thomas s'interroge pourquoi Jésus est mort sur une croix, eh bien saint Thomas dit, quand Jésus respirait à la croix, il sanctifiait l'univers. Ça c'est vraiment le mystère de l'incarnation. Et le sang du Christ qui tombait en terre sanctifiait la terre. C'est pour ça que nous marchons dans un cosmos, sur une terre qui n'a plus rien à voir à avant le Christ. L'évangélisation, c'est que aujourd'hui, cette terre-là, la nôtre, elle a été touchée par Dieu. Dieu a marché sur cette terre. Dieu a laissé son sang pénétrer cette terre et ça change tout. Et définitivement. Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, dira, Galates 4:4, la création gémit dans les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que cette terre-là, par le fait que le Christ l'a pénétrée par son pied, par son sang, par sa salive, par sa respiration, eh bien, il y a, comme une femme enceinte, il y a quelque chose d'irréversible. Il y a un moment, il y aura un accouchement de ce cosmos. La femme enceinte, elle finit, enfin, c'est une. Personne ne se dit qu'elle va garder le bébé plus de X mois. Ça va venir. Et bien c'est pareil dans l'évangélisation aussi. Notre espérance est là dans le fait que le Christ a enfanté ce monde et que ce monde va vers son terme. Les scientifiques le disent aujourd'hui, il y a une fin au cosmos. Déjà, scientifiquement, il y en a une. Ça, c'est prouvé aujourd'hui. Vous savez, il y a... Comment il s'appelle hein, cette conférence qui va se donner à Paris suite au livre là, sur Dieu, qui précise en fait ce qu'on peut dire aujourd'hui à partir de la science sur l'existence de Dieu. Bolloré, et puis il y en a un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref. C'est un livre qui est intéressant et qui manifeste que, oui, aujourd'hui, scientifiquement, on a prouvé qu'il y a un début et une fin à ce cosmos. Et parce qu'il y a un début, il y a nécessairement une fin. Et s'il y a un début, il y a nécessairement une cause. C'est pour ça que la science va plutôt dans le sens aujourd'hui de l'existence de Dieu. S'il y a un effet, il y a une cause. Si je bouge cette chaise, si j'ai un mouvement, il y a une cause à ce mouvement. Puisqu'il y a un mouvement, il y a une cause. Alors, au plan scientifique, c'est acquis. Hein. Mais ça aussi, vous voyez, dans l'évangélisation, c'est nouveau. C'est assez nouveau que la science affirme qu'il y a un début et une fin. C'était des hypothèses qui restent des hypothèses scientifiques. Moi, je ne suis pas scientifique. mais elles sont peut-être très confortées aujourd'hui, et donc dans un sens, elles vont dans le sens de ce que dira la bonne nouvelle, quoi. Ça, c'est le premier point. Alors, j'ai parlé d'une pastorale de l'accompagnement pour faire des disciples. Alors, on parle beaucoup de cette expression d'être disciple et disciple missionnaire. C'est-à-dire, un disciple, c'est pas un prestataire de service, c'est pas une caste, c'est pas non plus la vente d'une morale de situation ou une morale doctrinale. C'est pas ça être disciple. Hein? Vous savez, c'est toutes les limites. Alors, peut-être que certains vont suivre des choses comme ça, mais on a beaucoup, depuis 20-30 ans, développé des techniques pour l'évangélisation. On va dire qu'on a mis le marketing au service de l'évangélisation. C'est bien, mais il faut avoir les limites. Il y avait un docteur canadien qui avait fait un livre, ça s'appelait Les 12 leaders. Le mot leader, c'est marrant, il n'est pas dans l'évangile. On ne parle pas de mot leader. On parle d'apôtre. Et toutes les techniques, un pasteur selon mon cœur et tout ça. Tout ça, c'est très bien, mais il ne faut pas confondre l'activité que l'homme peut avoir au plan pastoral et puis le travail de l'esprit dans les cœurs. Moi, je pense que c'est pas... Je ne suis pas fidéiste. Je ne dis pas que c'est mal, mais il faut savoir le sujet à sa juste valeur. Il y a un risque pélagien très fort dans l'Église aujourd'hui de s'affaire de dénonce. C'est-à-dire de croire qu'à force de notre capacité humaine, on va évangéliser. Et un peu toutes ces techniques sont assez prétentieuses, hein. Moi, j'ai vu ça, un frère qui me disait, un type qui faisait de la préparation au sermon. Puis il disait que les deux prêtres qui prêchaient bien dans le diocèse, c'était les deux prêtres qui avaient assisté à sa formation. Bon. Donc nous, on prêchait très mal. Bon, c'est peut-être pas faux. Mais oui, à un moment, on est tellement pris par son truc qu'on finit par penser que si on ne fait pas ça...
Il faut que la technique soit au service.
Ouais, il faut qu'elle reste au service, il faut que la pastorale reste au service, mais il y a une certaine humilité là-dedans. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas les techniques, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître que ce n'est pas ça l'évangélisation. Alors, on pourrait prendre beaucoup d'exemples dans l'évangile, comment Jésus fait avec les apôtres. Jésus se sert beaucoup, par exemple, du travail que les apôtres avaient, la pêche, pour leur montrer qu'il leur parle d'autre chose, quoi. Même quand il l'a fait miraculeuse. C'est pour les ramener à autre chose. Très intéressant, ça. Mais dans l'évangélisation, il y a comme un danger, vous voyez. Être disciple, ce n'est pas être prestataire. On n'est pas des prestataires et on n'est pas là pour vendre une sauce ou un aspirateur. On n'est pas là non plus, et le saint Benoît XVI a beaucoup insisté là-dessus, pour ramener la foi à une morale. Ça, c'est une grande erreur qui vient surtout du 19e. Et le pape Benoît XVI dira la conversion, en fait, au principe, c'est toujours l'événement d'une rencontre avec la personne de Jésus. On est disciple dans la mesure où on rencontre le Christ. Même si on n'a pas, vous voyez, et c'est la difficulté d'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas dans nos églises? Moi, il y avait une dame qui s'occupait de ma mère, elle venait faire son ménage. Femme du monde rural, ma mère était dans un petit bourg là, à Mélan, une femme où il y a divorcée, comme il y a beaucoup de ces femmes en précarité aujourd'hui, donc qui a travaillé avec un salaire assez misérable, c'est les premiers emplois, on ne gagne pas des milliers des cents, mais c'est souvent comme ça dans les campagnes, vous avez des femmes seules avec deux, trois gosses qui ont pris un boulot d'aide-soignant de femme de ménage parce qu'il n'y a pas autre chose, et une femme très seule, très précaire. Et puis, bon, moi, je m'occupais de ma mère, donc je discutais souvent avec elle. Et elle me disait, moi, j'aimerais bien aller à l'église. C'est terrible d'entendre ce que je veux dire. Hein. Mais j'y vais pas parce que je n'ai pas les codes. D'abord, la plupart des gens, là, c'est que des vieux. Et ils vont dire, qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là? On sait qui elle est divorcée deux fois. Enfin. Et donc, elle n'a pas d'accès possible. Parce qu'on a ramené la foi et une vie morale. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes les premiers obstacles à ce que souvent les gens viennent. Les gens n'ont pas les codes. Donc, même s'ils ont envie de revenir vers l'Église, ils n'ont pas les codes. Et on ne sait pas s'adapter. Jésus, il n'avait pas de code avec les gens. Bon, j'insiste beaucoup parce que ça, c'est comme des tendances très fortes aujourd'hui. On voit beaucoup ça, même dans les communautés nouvelles, une certaine prestation. Et voilà, si vous participez à la communauté nouvelle, je ne vais pas donner de nom, mais il faut avoir certains codes, vous êtes reconnus, il y a une certaine reconnaissance sociale. Et même dans même les chrétiens, on nous reproche d'avoir des codes vestimentaires. Alors je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, hein, mais je ne sais pas pour juger les gens, mais je veux dire que c'est pour vous alerter au fait que ce n'est pas ça être disciple, quoi. C'est l'événement, j'aime beaucoup le ça permet de le mot événement, hein, événement d'une rencontre avec la personne de Jésus. C'est un événement, la conversion. La meilleure garantie, c'est d'essayer en vérité de vivre du Christ pour rester vrai, voilà, pour ne pas écraser les autres de nos fausses convictions théoriques. Je pense que c'est, vous voyez, la vérité qui est au fondement, qui est le socle de tout dans la foi, elle est aussi ce qui nous protège. Accepter d'être vrai avec nos frères, avec nos sœurs, c'est accepter aussi de reconnaître nos limites, nos incapacités, nos fragilités, pas se présenter comme le disciple, voyez, la personne qui a une certaine capacité. Non, on reste très fragile souvent, hein. On voit bien l'Église aujourd'hui, toutes les claques se prend. Parce que c'est peut-être bon pour elle, je veux dire, ça l'oblige à vivre du Christ plutôt que d'elle-même. Et puis, quand on parle de vérité, on parle de servir. Ça me permet de rentrer dans le premier point. La vérité, être vrai, c'est servir quelque chose qui nous dépasse. Saint Thomas dit « adéquation rei », l'adéquation réelle. La vérité, c'est l'adéquation réelle. Donc ça veut dire que la vérité, elle nous renvoie au réel. Et souvent, dans nos propres vies, on a énormément de mal à décoller de nous-mêmes. Alors, je vais pouvoir entrer dans le premier point. Pourquoi l'évangélisation est un service? Voilà, c'est ça qui touche au premier développement du Saint-Père. Pourquoi l'évangélisation est un service? Alors, le pape dira, annoncer l'évangile aux chrétiens et à toute l'humanité, c'est un programme de vie, c'est un programme d'action, c'est une préoccupation quotidienne. C'est qu'on sert quelque chose. C'est assez étonnant de dire ça. On sert. Quand vous servez quelque chose qui vous n'aide pas. Vous n'êtes pas le service. Et vous servez quelque chose que vous passez, que vous donnez. Le servant, il donne, s'il sert à manger, eh bien, il donne un plat que l'autre va prendre et qui va se faire sien. Dans le service, il y a la notion qu'on reste médiateur, qu'on passe quelque chose qui va devenir quelque chose qui va appartenir à l'autre. Vous voyez, c'est une vraie question. Est-ce qu'on est prêt, dans le service de l'évangélisation, à faire que l'évangile devienne la part de l'autre et plus la mienne? Que je ne suis pas, que l'autre n'est pas relatif à ma compréhension de l'évangile. Il a sa vision, j'irais, sa compréhension propre, personnelle, j'irais en fonction de sa vie, en fonction de son agir et en fonction de ses propres préoccupations. Vous n'allez pas, quand vous donnez à manger à quelqu'un, vous servez à table, lui reprocher de manger. Ou lui reprocher de ne pas vous dire, à la fin, tu me rends ce que je t'ai donné. Hein. Rends-moi la tarte. Vous voyez, ça nous fait rire, c'est un côté tellement ridicule. Mais c'est pour ça que le mot service, il faut beaucoup réfléchir sur ce mot-là, parce que ce mot a un sens très fort, au fond. Bon, j'insiste pas plus parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est pas rien que le Saint-Père commence par là, quoi. L'évangélisation, c'est d'abord une notion de service. Parce qu'on sert quelqu'un, ou on le dessert, on sert quelqu'un qui vous demande de passer quelque chose qui nous dépasse complètement. Vous n'êtes pas le plat. Alors, quand vous êtes un plat, vous êtes plus qu'un plat, c'est sûr. Vous êtes plus qu'une tarte, vous êtes plus qu'une rillette de diamant, hein, plus que des rillettes du monde. Quand vous passez le Christ, quand on sert l'évangélisation, on sert un plat, j'ai envie de dire, qui nous dépasse totalement, quoi. C'est Jésus. Et je trouve que c'est intéressant de réfléchir là-dessus pour nous-mêmes. Il y a quelque chose d'un peu, comment dirais-je, d'un peu écrasant, quoi. C'est que si on a un minimum conscience du trésor qu'est le Christ, c'est quand même pas rien de dire qu'on a à le servir et à le passer. Voilà. Et ça nous met un peu, pas dans la peur, mais il y a quand même une certaine frayeur, je veux dire, enfin, on sait bien qu'on n'est pas à la hauteur, c'est pas la question, mais de quand même essayer de garder une part de ce trésor qui nous dépasse complètement, quoi. Qu'as-tu, moi j'aime beaucoup cette phrase de Saint Paul au Corinthiens, qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et je suis sûr que si les chrétiens, on avait un peu plus conscience de cette phrase, qu'as-tu que tu n'aies pas reçu, on serait moins propriétaire de la grâce. Bon, j'insiste pas plus. Alors, on va revenir à ce point-là que j'avais mis un peu en introduction. Le Saint-Père commence son texte par deux citations bibliques. Pas plus, deux. Agnès Marie, oui, voilà, merci. Elles sont comme deux consignes fondamentales. Et ces deux citations que le Saint-Père fait justifient le fait que l'Église accomplit son office messagère de la bonne nouvelle. Je vous les invite là, ces deux phrases que vous avez déjà citées. La première est tirée, je vous ai mis les références, hein, Éphésiens, Colossiens, Galates, Romains, Corinthiens. Revêtez l'homme nouveau. On pourrait faire, vous voyez, toute la réflexion sur ces deux phrases, et puis travailler les unes aux autres, parce que tout est là, à mon avis. Alors ça, si vous allez voir le texte Evangelium Sandi, c'est dans les 4-5 premières lignes. Donc nous, quand on commence à lire un texte, dans l'introduction, on a déjà passé. Hein. On n'a même pas vu qu'il y avait ça dans le texte. Je ne suis pas en train de vous dire quelque chose qui apparaît après 20 pages de réflexion, c'est dans les premières lignes de l'introduction. C'est-à-dire qu'on a très vite tendance à les passer, en fait, à même pas les voir. Revêtez l'homme nouveau. Et puis la deuxième de la lettre aux Corinthiens, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Vous voyez, je vous ai déjà introduit ça, c'est revêtez-vous, laissez-vous. Il y a à la fois, vous voyez, revêtez-vous, donc il y a une activité, si je puis dire, laissez-vous, il y a une passivité. Et dans notre conversion, qui aboutit à l'évangélisation, il y a ces deux dimensions. Il y a quelque chose que nous recevons, on n'y peut rien. La foi qu'on a reçue, ce n'est pas nous qui l'avons choisie. Enfin, la foi, c'est un don. Hein. Il ne faut jamais oublier ça. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu ? La foi est un don. Et c'est pour ça que la foi nous met dans l'action de grâce. La première chose, je veux dire, qui revêt, qui jaillit de cette phrase, c'est l'action de grâce. À la fois que Dieu nous fait coopérer, revêtez-vous, la foi qui nous donne quelque chose qui est inaccessible par nous-mêmes, la foi, elle nous est donnée. Pourquoi est-ce que vous avez la foi? Parce que Dieu vous l'a donnée. Et laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est essentiel, il y a une unité qui doit se faire en nous, qui est assez passive de certaines manières, c'est-à-dire qu'il faut laisser Dieu agir en nous, il faut laisser le Christ nous reprendre. Et donc ça veut dire que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et ça, c'est très présent, vous voyez, dans l'évangélisation. On veut souvent organiser, et c'est pas dire qu'il ne faut pas le faire, organiser les choses, les fixer, on veut avoir notre rythme, on aimerait que les gens qu'on aime se convertissent à la vitesse que celle qu'on a fixée pour eux, etc. Ben, non, il y a une facilité, il y a une nécessité de laisser Jésus agir. Et ça, c'est la grande protection contre le pélagianisme, c'est le danger de faire que l'humain prenne le dessus sur tout. Ben c'est ça, Pélage, c'est qu'il y a une dimension où la dimension humaine prend le dessus, pour parler simplement. Il y a un pélagianisme, un semi-pélagianisme, on ne parle pas François dans ses derniers textes, Mais c'est ça, au fond, c'est... Et on est tous un peu pélagiens à notre époque. Hein. Parce qu'on est dans une époque de suractivité, où il y a un orgueil de l'homme à croire qu'il peut tout changer et tout refaire. Et vous voyez bien, le Covid, c'est entre guillemets, c'est une, je dirais, un virus qui veut réapprendre à l'homme qu'il n'a pas le contrôle de tout. Moi, ça me frappe beaucoup. Ouais.
Si effectivement la foi nous est donnée par Dieu,
ouais,
on pourrait dire ben, à ce moment-là qu'il adore à tous les hommes et tout le monde est converti.
Ben non, parce qu'il n'est pas communiste, Dieu. Ouais, mais c'est ça qu'il faut entendre. Il y a une dimension hérétique dans ce que vous venez de dire. C'est qu'on a une vision communiste de la foi. Universaliste, pour dire autrement. Ben non, Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Non, ben non. Ça nous dérange. Et Dieu dit, ben prends ta pièce. Dégage et prends ta pièce. Au 11e ouvrier. L'ouvrier qui a travaillé toute la journée pendant 12 heures, l'autre qui vient, qui débarque, il a le même salaire pour une heure de boulot. Il n'est pas content le premier. Et Dieu lui dit, ben, prends ta pièce et dégage, je fais ce que je veux de mes biens. Et Dieu, c'est ça la réponse, Dieu n'a pas à justifier la manière dont il agit. Et Dieu peut donner le même salaire à quelqu'un qui aura travaillé une heure, tandis que celui qui aura fait 12 heures. Et Dieu n'a pas à justifier. Ça nous emmerde parce qu'on nous invoque où Dieu lui-même a nous rendre des comptes. Laissez-vous. C'est-à-dire qu'il y a une passivité au sens, il y a une action de l'évangile, de la parole de Dieu, la bonne nouvelle, qu'on doit laisser faire. Il y a quelque chose qu'on doit à la fois agir et à la fois laisser faire. Il faut que vous réfléchissiez dans votre propre vie, tous les lieux où vous vous rendez compte que vous êtes en opposition. Il y a une contradiction dans les deux termes. Elle est donc, dans l'évangélisation, il y a une contradiction. Elle est au cœur même de ce qu'on vit. Au cœur même de ce que vit, il y a se revêter et laissez-vous. Et on sera toujours ennuyé, enfin, on sera toujours comme, vous voyez, comme fêlé, quoi, par ça. On sera toujours dérangé parce qu'on aura toujours une tendance à faire, à pas se laisser faire, et pourtant, parfois aussi, à bien vouloir se laisser faire. Et cette contradiction-là, elle est au cœur de l'évangélisation. Et c'est pas rien, ça. Il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Et regardez dans votre propre vie. Même avec les gens qu'on aime, on aimerait tellement qu'ils se convertissent, je sais pas quoi, bah Dieu dit laisse-moi faire. Je sais où je conduis, toi tu les aimes, et moi aussi. Et je sais, tu n'aimes pas plus tes enfants que moi. Tu n'aimes pas plus ce peuple que moi. Fais ce que tu as à faire, je ne te dis pas de rien faire, ne rentre pas dans ta chambre, mais n'oublie pas qu'il y a ces deux actions. Où je te demande d'agir et de me laisser faire. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est essentiel. Et qu'on est perturbé dans l'évangélisation entre les deux. On ne comprend pas comment Dieu agit, pourquoi il ne va pas plus vite, pourquoi il laisse faire. Pourquoi est-ce que Dieu permet le Covid qui vide nos églises, déjà qu'on n'a plus beaucoup de moyens? Pourquoi Dieu permet ça, quoi? Ben Dieu permet aussi que l'homme aille à sa perte, enfin, à ses contradictions lui-même.
Enfin, c'est bien, mais on est tellement petit que pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous, en fait, finalement? Est-ce qu'il peut pas faire
plus? Parce qu'il a choisi ça. Il l'a choisi. Donc il y a un objectif quand même dans ce concile, c'est rendre l'Église du XXe siècle encore plus apte à annoncer l'Évangile à l'humanité du XXe siècle. On est au XXIe. Alors ça, moi, je n'insiste pas, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de reproches. On dit que le concile, en fait, a voulu trop s'approcher du monde et qu'à force de trop s'approcher du monde, il s'est fait bouffer par lui. On entend ça aujourd'hui, très fortement. Que les magistères, c'est mondanisé. Bon, je ne fais pas de commentaire, je vous le dis, mais parce que c'est important, parce que c'est dans le contexte qu'on vit aujourd'hui. On attend du pape un élan nouveau, capable de créer dans une église encore plus enracinée dans la force de la Pentecôte, dans un temps de nouveau de l'évangélisation. Voilà. Voilà deux objectifs que le concile fixe. On parle bien à l'époque d'aujourd'hui, et il faut un élan nouveau. C'est vrai qu'on sent bien que l'Église a besoin d'un souffle. pouvez insister sur l'église de Marie. Au numéro 3, parler de nouvelle évangélisation. Alors, voilà, on parle de nouvelle évangélisation. Alors, les conditions de la citation du Saint-Père, les conditions de la société nous obligent à réviser les méthodes, à chercher par tous les moyens, à étudier comment faire arriver à l'homme moderne le message chrétien. Réviser les méthodes, comment faire arriver à l'homme moderne le message chrétien. Ça, c'est une vraie question, une vraie préoccupation. Dans lequel il peut trouver la réponse à ses interrogations et la force pour son engagement de solidarité humaine. Voilà. Les conditions de la société nous obligent à reviser les méthodes. Réviser les méthodes, pourquoi ? À chercher tous les moyens à étudier comment faire arriver à l'homme moderne le message chrétien, dans lequel il peut trouver la réponse à ses interrogations et la force pour son engagement de solidarité humaine. Avec deux exigences. Préserver dans sa pureté intangible le patrimoine de la foi. Vous voyez, il ne s'agit pas d'être dans une notion d'adaptation. Il s'agit, il faut s'adapter, il faut une intelligence de notre monde, mais la difficulté, c'est qu'il faut garder la pureté du patrimoine. Il faut garder la foi. C'est une première exigence. Il ne s'agit pas de prendre les moyens de l'évangélisation, de faire arriver le message à l'homme tout en perdant le contenu. Parce que d'une certaine manière, la foi est la même hier, aujourd'hui et demain. Mais il faut pour autant présenter ce contenu aux hommes de ce temps de manière compréhensive et persuasive. C'est ça la difficulté, c'est qu'on a à garder un contenu, un dépôt de la foi. Il faut garder le contenu de la foi et la présenter aux hommes de compréhension. Je prends un exemple, la confession. Dans les années post-conciliaires, l'Église a précisé ce qu'on appelle l'absolution collective. Surtout les assemblées pénitentielles, là, l'Église n'en veut pas. Mais ça, je pense que c'est une manière détournée de rendre le message compréhensif tout en perdant le contenu.
Pardon. Vous parlez du patrimoine de la foi. Pour moi, le mot patrimoine, ça veut dire c'est l'ensemble des biens que détient une personne physique ou morale.
Oui.
Donc, du coup, la foi, on n'est ni une personne physique ni une personne morale, je ne comprends pas comment on peut avoir un patrimoine. Mais vous expliquez...
Alors, quand je dis vous parler, ce mot, il n'est pas de moi, il est du pape.
Et après, j'ai l'impression que vous le traduisez, vous me le rendez accessible en parlant de contenu.
Oui, un dépôt, oui.
Le dépôt de contenu, d'accord. Et alors là, qu'est-ce qui caractérise ce dépôt, ce contenu ?
Le dépôt de la foi, ben, c'est d'abord le credo. C'est pas les églises, on s'en fout de ça. Ici, on est au niveau du contenu. Donc, on est bien au niveau du patrimoine de la foi de l'Église. Il y a le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est ça, d'abord, le dépôt de la foi. Il est contenu dans les articles de foi. Principalement, il est concentré là. C'est ça, d'abord, le patrimoine. Le credo.
Ce n'est donc pas la liturgie.
Ben si, la liturgie fait partie de la foi. Si. Mais la liturgie, elle a une part persuasive, une part compréhensive, elle s'adapte aussi. La liturgie n'est pas la même en Europe qu'en Afrique. Dans l'Église catholique, il y a 16, je trouve plus le terme, il y a 16 rituels. Vous êtes dans le rite romain-latin. Bon, il y en a 16 autres, hein. Enfin 15 autres.
La question. Enfin,
ouais.
Quelle est votre
préoccupation? Moi, sans parler de moi, y compris dans l'Athénéum où j'ai aimé beaucoup de cours, le seul sur lequel je ne me suis pas sentie habitée,
d'accord,
c'est le cours sur la liturgie. Et je sais que c'est dans ma vie, c'est ce que j'ai rejeté à un moment donné, c'est tous les aspects rituels liés à la religion.
D'accord.
Et que, comme vous le dites aujourd'hui, ben, les personnes qui arrivent à l'église, elles n'ont pas ces codes-là, c'est aussi des choses qui rejettent et qui empêchent.
Tout à fait, oui.
J'ai envie de m'unir complètement, mais je sens bien que sur cet aspect-là, c'est vraiment une facette qui est proposée que je n'arrive pas à épouser.
Ouais.
Et donc, autant je sens le bien que ça me fait, parce que dans la liturgie, ben, il y a la confession, entre autres, qui en fait partie, que les différents actes de foi que j'ai pu, auxquels j'ai eu accès, comme la communion, la confirmation, je sais le bien que j'ai vécu. En revanche, dans un certain nombre de choses qui sont à faire, je c'est pas quelque chose que je vis, et du coup, voire même, je vois en quoi ça crée des oppositions, que ça fait fuir les gens, quoi. Donc, donc voilà, si j'entends que si je dois accepter sans discuter que la liturgie fait partie du patrimoine de la foi, alors que tout cet aspect de liturgie a été fait après Jésus, en plus de ce que je comprends, pour ce que j'ai pu lire, ça n'est ni dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau, mais plutôt dans ce qui a été créé a posteriori, même si je veux bien croire que c'est inspiré des paroles, de la parole de Dieu, n'empêche que j'ai le sentiment que ce sont des hommes qui ont créé, qui ont mis ces choses-là en place et, pour caractériser l'Église. Alors, que ce que je lis, moi, très simplement, la caractérisation de l'Église, c'est quand deux hommes, deux personnes se réunissent pour parler de Dieu, et cette définition-là, je l'épouse entièrement.
Oui.
Tout ce qui est ensuite, j'ai l'impression, c'est que ça complexifie les choses, ça m'éloigne de ce qui est de l'essence, et moi, je ne le vis pas très bien. Et comme c'est souvent dans les discussions des choses qui peuvent revenir, et à côté de ça, je croise d'autres chrétiens qui sont tout complètement habités par les louanges, par. Qui bénéficient d'une dimension supplémentaire parce qu'ils sont dans des chants grégoriens. Enfin, je peux comprendre qu'ils le disent comme ça, mais la plupart de ces amis chrétiens seraient considérés pour beaucoup de personnes par, je peux utiliser le mot radical, mais extrémiste que je vais utiliser, et ne rendent pas, enfin, ça ne semble pas accessible. Enfin, pour moi, ils le sont parce que c'est moi, que c'est ma curiosité, l'ouverture et l'envie d'aimer tout à chacun. Et pour les personnes qui sont un peu plus éloignées et qu'on a envie de rapprocher, ben, c'est vrai qu'eux, ils ne sont pas marketés, quoi, hein. Ils ne se rendent pas sexy, entre guillemets, pour reprendre des termes plus marketing.
C'est sûr que ça, c'est une vraie difficulté. Moi, je suis d'accord avec vous. Après, quand vous parlez de avant, puisque Jésus au début, puis après, ce que les hommes ont rajouté, la notion de tradition, encore une fois, elle se situe pas comme ça. C'est pas ce qui arrive au début, puis après, la liturgie fait partie de la tradition de l'Église. Elle s'est formée en plus à travers les siècles, à travers les communautés, à travers les mouvements qu'elles ont vécu, leur agir propre, etc. C'est un mouvement très très lent. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile. Parce que les sensibilités sont très fortes. Et puis c'est vrai, on est dans une société qui n'est plus chrétienne. Donc, moi, je ne dis pas que les gens étaient plus chrétiens avant, mais c'est socialement, ils acceptaient les codes. Aujourd'hui, il y a une remise en cause partout, et de manière très existentielle, de tous les codes qui puissent exister dans l'Église ou ailleurs, de fait. Et donc, je comprends ce que vous vivez. Ouais.
Moi aussi, je comprends bien, mais je pense qu'on a tous un chemin différent. Et que finalement, le Seigneur arrive à travers notre chemin personnel à nous parler par telle ou telle chose. Et on n'adhère pas forcément à tout, en tout cas d'emblée. On est façonné aussi petit à petit à cause de notre vie, etc. Et j'aime bien l'idée de laisser le temps au temps aussi, de nous laisser mûrir. Alors évidemment, pour témoigner de sa foi, pour évangéliser, on ne peut partir que de nous, de là où on en a ce qu'on a compris. On n'est pas obligé de de tout manifester de ce que le contenu de la foi, parce que nous, on a une vie très particulière avec ce qu'on a compris, ce à quoi on adhère, et ce sur lequel on lutte. Mais ouais, les doutes font partie aussi de notre témoignage, de notre foi, et on fait réfléchir.
Il y a deux termes, il y a persuader et comprendre. Or, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure au début, je vous ai dit théorie et pratique. La théorie, la pratique, ce n'est pas simplement l'application d'une théorie. Il y a une intelligence pastorale propre. Oui, je prends un exemple concret. La célébration pénitentielle. L'Église ne veut pas, ce n'est pas un mode de confession. C'est beaucoup développé après le concile, et il y a encore beaucoup de prêtres qui font ça, qui réduisent tout le monde, puis absolution collective. C'est permis dans les cas d'urgence extrême, en cas de mort imminente. Mais sinon, il faut aller avec le prêtre se confesser. Ça, c'est la théorie. La théorie, c'est que vous devez aller auprès d'un prêtre, dire vos péchés. Il y a une part de pédagogie, d'humiliation, de dire à un homme qui représente Dieu vos péchés. Bon, ben, vous avez des lieux dans le diocèse où il existe encore des célébrations pénitentielles. C'est, d'une certaine manière, c'est contraire à la foi. Mais pastoralement, parce que les gens ont été habitués comme ça depuis 30 ans, eh bien, il y a une intelligence pastorale, une chose que vous permettez, même si vous ne le souhaitez pas, et qu'il faut accompagner pour éviter un rejet des personnes, sinon les gens vont s'éloigner. C'est-à-dire que quand on parle de théorie, elle donne les grands principes de la foi. Mais la pratique, c'est avoir... La pratique, ce n'est pas l'application de la théorie. J'insiste beaucoup là-dessus. La pratique pastorale, ce n'est pas l'application d'une théorie pastorale. Il y a une intelligence propre. C'est pour ça que, ben, je prends des exemples concrets, il n'y a pas une succursale des diocèses de France. Chaque diocèse est autonome. On a tendance avec la CEF, le regroupement des évêques de France, un peu à perdre ça. Un diocèse est autonome. Un évêque, il est responsable sur son territoire et c'est lui qui décide ce qui se passe sur son territoire. Et un curé, il est autonome dans sa paroisse. Ben, évidemment, il ne doit pas faire des choses qui sont contraires à la foi, mais aussi, il faut aussi faire confiance aux pasteurs, aux responsables dans l'Église, qui ont une intelligence pastorale propre. Et elle n'est pas la même. Le curé d'Aigbon, ce n'est pas le curé de Saint-Louis, ce n'est pas le curé de la cathédrale, ce n'est pas le curé de Saint-Paterne. C'est des intelligences différentes. Et cette diversité-là de compréhension de la pastorale, elle permet aussi à des gens différents de se sentir à l'aise avec certains. Quelqu'un qui va à Saint-Gwen ne sera pas forcément à l'aise à Saint-Paterne. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut tout faire comme Saint-Paterne ou tout faire comme Saint-Gwen, c'est débile. Il y a une intelligence propre. Et donc, dans votre démarche personnelle, il faut que vous trouviez un lieu où eh bien, les personnes qui sont là peut-être vivent un peu quelque chose de similaire à ce que vous vivez. Et du coup, ils vont mieux vous comprendre et mieux vous accepter. Il faut chercher le lieu qui vous convient le mieux.
Oui, alors ma question, elle était plus dans les clés de la mission. Et du coup, ça m'amène à beaucoup d'humilité, évidemment. Mais puisqu'aujourd'hui, à mon niveau, je ne serais pas en capacité, en tout cas, à aujourd'hui, je n'accepte pas entièrement les aspects de la liturgie qui fait partie de la patrimoine de la foi. Du coup, humblement, je ne suis pas en capacité de préserver dans une pureté intangible, puisqu'il y a des aspects que je n'épouse pas encore, dont je n'ai pas la compréhension.
Oui, mais ça, c'est tout le monde est comme ça. Enfin, je crois que tous, on est tous à tout digérer, tout comme. Non, il y a une part.
Mais ça n'empêche pas d'être missionnaire, si on n'a pas une capacité à respecter de manière complètement pure ce qui nous est transmis.
Allez voir un prêtre ou quelqu'un qui est engagé dans l'Église, il ne vous rejettera pas pour ça. Vous n'avez personne qui vous rejettera. Il essaiera de vous comprendre et il essaiera aussi de vous faire comprendre aussi ce qui touche là-dedans à la part de blessure de votre propre vie. Il y a peut-être aussi des dimensions qui sont blessées chez vous, qui font qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui sont liées à vos blessures.
Ouais.
Ben ça, c'est comme ça tout le temps aujourd'hui.
Oui. Ça conduit à être d'abord compréhensive avec moi-même, en fait.
Oui, ben, il faut qu'on vous comprenne, et après, quand on vous a compris, qu'on vous persuade.
Oui, et d'accepter que pour pouvoir me persuader d'une chose, il faut d'abord que je sois un peu plus compréhensive avec moi-même aussi.
Oui, il faut se comprendre. Ouais. Oui. Il y a toujours, je dirais que le chemin de la conversion, il passe toujours par un chemin de l'intelligence. Par une capacité à faire le vrai aussi dans nos vies.
J'ai une amie qui est un peu comme vous, en fait, qui était très qui n'aime pas trop les rites et des choses comme ça. Et elle, elle a subi quelques rejets déjà avec des groupes de prière qui ne correspondaient pas du tout à elle. Ouais. Donc elle s'est tournée un petit peu vers d'autres choses. Et récemment, je lui ai présenté les franciscains qui, en fait, sont. C'est un peu comme Saint-François qui adorait l'église, qui, voilà, qui obéissait à l'église, mais qui n'était pas d'accord avec tout. Et qui a fait. Il a suivi les gens de son cœur finalement. Et donc il a créé une groupe, enfin, il a créé, grâce à Dieu, un groupe de personnes qui s'est senti appelé par Dieu. Par le modèle qu'il proposait du Christ, en fait. Et donc, votre modèle n'est pas forcément mauvais, c'est juste qu'à un moment donné, ce que nous dit le Père, vous allez trouver un groupe qui va vraiment vous parler.
Il y a une notion de paternité dans ce que vous dites là. On en parlait le jour avec l'évêque, justement, sur des groupes qui sont très différents. Et vous voyez, les oppositions, par exemple, l'éjection là, de Au Petit à Paris, c'est un groupe qui s'est opposé à lui, qui a été chercher ce qui pouvait s'opposer. Enfin, il y a une volonté de le détruire et de le supprimer. Et sans doute aussi parce que l'évêque lui-même, dans sa conduite, dans sa gouvernance, il n'a pas su accepter des choses dans des paroisses qu'il ne comprenait pas ou qui lui paraissaient tout à fait contre la foi. Alors, évidemment, il y a des limites. L'évêque ne peut pas tout accepter, mais il y a aussi dans la paternité de l'évêque la capacité. Vous savez, tous les dimanches, moi je suis vicaire général, tous les dimanches je vais dans des messes différentes. Je ne fais jamais aucune remarque. Il y a des fois, je veux dire, on avale des couleurs, hein. Mais jamais je ne ferai jamais de remarque. Parce que c'est là où je ne sais pas, après coup on peut dire, ben là par exemple, je ne vais pas vous dire que là. Il ne faut pas mettre ça, il faudrait mieux mettre un psaume plutôt qu'un texte chanté qui n'a rien à voir avec la liturgie. Parfois on le dit, si on sent que les gens sont ouverts, c'est pas qu'on ne le dit jamais, mais il y a cette capacité qu'on doit avoir paternellement à accompagner les gens là où ils sont, et ça demande une grande pauvreté intérieure. Et c'est nécessaire. On n'est pas père, un père il a des enfants différents, il y en a qui vont dans le sens de ce qu'ils voudraient, ils font la carrière qu'ils ont bien aimé pour leur enfant. Puis il y a des enfants, c'est pas tout à fait ça, quoi. Ben, il va pas dire c'est plus mes enfants. La paternité, la maternité vous oblige à aimer vos enfants tels qu'ils sont, pas tels que vous voudriez qu'ils soient ou comme vous auriez voulu les faire. On a parfois des surprises dans ceux qui ont des enfants ici. Ben, c'est pareil dans le rôle pastoral, il faut garder cette capacité à accueillir. Et moi, je pense que c'est essentiel, surtout aujourd'hui où l'Église est tellement divers. Voilà, on va avancer. Attendez, oui.
Je pense que, enfin, pour revenir au cas de Monseigneur Au Petit,
oui.
C'est pas parce qu'on est évêque qu'on doit, tous les chrétiens qui sont opposés fortement, un centre qui s'appelle le centre Saint-Méry,
hein, oui, c'est ça.
Et qu'on ne doit pas, parce qu'on est évêque, parce que ça ne lui plaît pas, cette façon de gouverner une paroisse et de machin, de par son autorité, je propose que ça qui est un grand tort, de par son autorité, de dire, eh ben, je supprime, enfin, un peu c'est ça qui est arrivé, je supprime ce truc-là parce que ça ne me convient pas, parce que c'est pas dans mon. Dans, il ne comprenait pas, enfin, alors que c'est un mouvement qui avait fait ses preuves, qui était là depuis 40 ans et qui était là. Que c'est une paroisse qui marchait bien. Et comme on dit, il y a des sensibilités de
je pense qu'il y a des limites à ça. C'est qu'on rejoint ici ce que disait la préservation en pureté, attention du patrimoine de la foi. À Saint-Méry, il y avait des choses quand même qui étaient plus que limites. Donc l'évêque, il est pasteur. Donc il doit tenir les deux. C'est-à-dire qu'il doit tenir la pureté de la foi et permettre qu'elle soit présentée. Alors au groupe Saint-Méry, il y avait tout un groupe LGBT, ouais, etc. Ouais. Donc il faut aussi qu'on sache parler à ces gens-là. Donc, il faut une compréhension, une persuasion, mais il y a un moment, enfin, je veux dire, c'est pas non plus parce qu'on dit n'importe quoi qu'on fait n'importe quoi. Et c'est, on retrouve vraiment ce problème-là. Il y a deux exigences.
Mais il n'a pas voulu aussi, je pense, en termes des pasteurs, je pense l'un des derniers.
Je connais pas trop la situation.
L'un des derniers qui était Daniel Duigou, le père Daniel Duigou, qui a été journaliste, et qui est l'un des derniers qui a aussi. Essayer enfin de ramener un petit peu le truc.
Bon, on va arrêter là-dessus parce que je veux dire c'est pas simplement pour donner du goût. Par exemple, dans la pureté de la foi, il est pour l'ordination des femmes, ce qui ne se fera jamais dans l'Église catholique. Ça c'est sûr. Le Saint-Père a engagé la foi de l'Église pour dire qu'il n'y aura jamais d'ordination de femmes dans l'Église. Donc, vous voyez, la difficulté, c'est d'à la fois permettre à Duigou de gérer ses troupes, si je puis dire, Mais bon, à un moment, il faut lui dire aussi, bah là, tu dis des choses qui sont contre la foi de l'Église. Alors, tu peux sortir de l'Église et aller faire ton troupeau ailleurs, mais ça, c'est plus catholique. Et c'est ça aussi, c'est que on doit aussi, dans notre époque, avoir la force de dire les choses. Quoi. Enfin, c'est pas, on est pas, parce qu'on n'est pas propriétaire de la foi, on en est serviteur. Et parce qu'on est serviteur d'une vérité et d'une foi et d'un contenu qui nous dépasse, on a à servir parfois au détriment, on va le voir plus loin, au détriment de notre propre vie, parce que le plat ne nous appartient pas. Et chacun ne fait pas ce qu'il veut dans le plat. C'est ça la difficulté. On va avancer au numéro 4. Alors le pape va poser 3 questions. La première, c'est: qu'est devenue de nos jours cette énergie cachée de la bonne nouvelle capable de frapper profondément la conscience de l'homme? C'est la première question que le Saint-Père pose. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas, derrière ça, il y a la volonté de relativiser la bonne nouvelle, peut-être parfois de l'adapter tellement au monde qu'elle en perd sa saveur? Ça, c'est une vraie question. C'est la preuve que Paul VI pose cette question-là. Deuxième question. Jusqu'à quel point et comment cette force évangélique est-elle en mesure de transformer vraiment l'homme de ce siècle? Vous voyez, est-ce que la force de l'évangile est encore capable de transformer le monde d'aujourd'hui? On ne peut pas dire que le libéralisme soit une vision évangélique de l'homme. Enfin, je veux dire, le communisme est mort. Mais le capitalisme libéral qu'on vit, il va mourir, hein. La mondialisation, elle va crever, elle est en train de crever du Covid. Bien, c'est cette capacité à transformer. Et troisième question, suivant quelle méthode faut-il proclamer l'Évangile pour que sa puissance soit efficace? Vous voyez, il y a bien une volonté d'efficacité de la part du pape. Une énergie cachée, frapper la conscience de l'homme, transformer l'homme, et une puissance qui soit efficace. Donc, dans l'évangélisation, il n'y a pas, c'est pas juste, oui, bon, on t'évangélise, mais bon, après tout, non, il y a une volonté d'efficacité, de transformation, d'énergie nouvelle, de force. Et j'insiste, vous voyez, c'est les trois questions que le Saint-Père pose au début de son exhortation. Et le pape pose une question fondamentale. Après le Concile, et grâce au Concile, qui a été pour elle une heure de Dieu en se tournant de l'histoire, là c'est l'heure de Dieu, c'est en grec, c'est kairos. C'est qu'à un moment dans l'histoire, le temps rejoint, fait une dimension événementielle, quoi, qui transforme. Dieu transforme. L'Église se trouve-t-elle, oui ou non, plus apte à annoncer l'Évangile, à l'insérer dans le corps de l'homme avec conviction, liberté d'esprit et efficacité? Mais là, on est en visite pastorale avec l'évêque et on rencontre beaucoup d'acteurs sur le terrain. Puis là, on a rencontré des directeurs d'école. Ben, moi, j'étais frappé de voir comment ça a changé. Et en fait, souvent, ce qu'ils nous disent, c'est que les enfants, je dis, sont beaucoup plus ouverts, les parents aussi, et que ceux qui sont l'obstacle à aller parler de l'évangile dans les écoles, ce n'est pas les parents ni les enfants, c'est souvent les prêtres, qui ont fini par prendre peur et par croire qu'en fait on ne les attendait plus. Or qu'il y a une attente et une soif très forte aujourd'hui. Il y a une attente et une soif beaucoup plus forte qu'il y a 20 ans. Ça c'est certain. Les gens, y a moins d'a priori parce qu'ils ne connaissent plus l'Église, ils n'ont pas eu d'expérience de l'Église, donc ils n'ont pas d'avis positif négatif. Donc ils sont plus questionnants en fait. Alors ça, c'est tout un questionnement que le Saint-Père pose, qui sont des questions très intéressantes, je trouve, et qui nous interpellent, quoi. Alors, numéro 5, à qui s'adresse l'exhortation apostolique post-synodale? Vous pouvez avancer, Saint-Esprit? Voilà. Encore un peu. À qui s'adresse l'exhortation? D'abord, elle est pour tout le peuple, rassemblé dans l'Église, et spécialement ceux qui peinent à la parole et à l'enseignement. Vous voyez, ça rejoint ce que vous disiez. Voilà, l'Église, elle a d'abord le souci de s'adresser à ceux qui, d'une certaine manière, ont une difficulté avec elle. Quels moyens privilégions-nous pour une réflexion sur l'évangélisation? que chacun d'eux soit un fidèle dispensateur de la parole de vérité. Moi, je pense que c'est essentiel, cette phrase. Il ne faut pas avoir peur de dire la chose, de dire la vérité. Sans l'imposer, avec humilité, mais sans y renoncer. Après, les gens sont libres. Et oui, quand on dit les gens sont libres, je le dis au sens de Jésus-Christ, c'est-à-dire la vérité vous rendra libre. Si vous dites quelque chose qui est vrai, les gens sont libres de l'accueillir pour être libres de l'accueillir pour être libre. La vérité vous rendra libre. Dire la vérité, elle nous libère de nous-mêmes. Mais dire la vérité libère les autres aussi. Ça, c'est essentiel. On ne peut pas avoir peur de la vérité. Vous voyez, les difficultés dans l'Église, bon, le rapport de la science, à mon avis, il est un peu faussé. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir le courage de la vérité sur l'Église. Après, ce n'est pas l'étalage, et ce n'est pas se servir des victimes pour faire encore quelque chose de plus abusif. Bref. C'est terrible de servir des victimes, de se servir d'eux, c'est les abuser une deuxième fois. Mais je pense que c'est essentiel qu'on comprenne bien cette notion, vous en parlez de la lettre à Timothée, hein, dispensateur de la parole de vérité. Moi, je pense que c'est essentiel. Parler de l'Évangile, c'est parler en vérité, c'est être vrai aussi. Et c'est reconnaître qu'on n'a pas tout compris, qu'on ne vit pas tout parfaitement, c'est pas grave. Il faut prendre la joie où ils sont, c'est pas... Jésus, il a toujours fait ça, hein. Non seulement il a pris où il était, mais parfois il s'est mis plus bas. Pourquoi ce message n'est pas facultatif et que vise-t-il? C'est un devoir qui lui incombe du Seigneur pour que les hommes puissent croire et être sauvés. Pourquoi est-ce que l'Église doit annoncer l'Évangile? Parce qu'elle a la responsabilité du salut. C'est un devoir. Ça, c'est une phrase du pape. Hein. Je l'ai gravé entre parenthèses, mais c'est un devoir qui lui incombe du Seigneur pour que les hommes puissent croire et être sauvés. Si on ne propose pas la vérité de la parole, si on n'est pas dispenseur de la vérité, alors on ne peut pas conduire les gens à la foi. Moi, je vois avec des enfants, avec des jeunes, etc., il faut être vrai. Après, que Dieu les conduise à la conversion, ça, c'est le travail de l'Esprit-Saint. Ça, ce n'est pas nous. Il ne faut pas confondre notre action. Nous, on a cherché à travailler... à dispenser la vérité, à être vrai, la conversion des personnes, ça appartient à l'Esprit. Pas nous qui convertissons les gens. Hein. C'est l'Esprit-Saint. Mais si la personne n'entre pas dans un... ne se fonde pas sur une certaine vérité, elle ne peut pas accueillir l'Esprit. Jésus, avec les personnes, il est tout le temps vrai. La Samaritaine, quand il lui dit ces quatre vérités, elle lui dit « Appelle ton mari, je n'en ai point. » En cela, tu dis vrai, parce que celui avec qui tu vis, hein, c'est le cinquième. Qu'est-ce qu'elle fait, la Samaritaine? Elle part au bled, et puis dit « Venez voir un homme qui m'a raconté tout ce que j'ai vécu. » Enfin, elle est quand même chouette. Elle retourne dans son village pour dire « Venez voir, j'ai trouvé quelqu'un qui sait toute ma vie de merde. » et qui vient me la raconter. Enfin, il faut qu'il y ait une certaine liberté d'esprit pour dire ça. Et quand elle lui dit « En cela, tu dis la vérité, car ce n'est pas celui avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari. » Vous voyez, moi je vous dis ça parce que c'est intéressant, la Samaritaine, qu'est-ce qu'elle dit derrière? Est-ce que vous vous souvenez du passage derrière ce qu'elle dit, la Samaritaine? Quelle question elle lui pose? Il vient de lui dire la vérité sur sa vie d'adultère. Donc sur son intériorité désordonnée. Et quelle question lui pose derrière? Une question de liturgie. Vos pères disent qu'il faut adorer, et nous on dit qu'il faut adorer, etc. C'est une question liturgique. Vous voyez, quand Jésus lui raconte sa vie d'adultère, il la met devant sa vie, elle lui parle de toute autre chose apparemment, qui est la liturgie. Où faut-il adorer? Elle est paumée dans son intériorité. Dans son intériorité, elle est paumée, elle ne sait plus où il faut adorer. Alors on dirait quel lien il y a entre cette question liturgique et sa vie passée. C'est intéressant, hein? c'est dans le cas de cette personne, c'est très personnel, mais c'est dans ce cas de cette personne-là, eh bien, son désordre liturgique provient d'un désordre intérieur. Et Jésus lui met devant ça. Elle le comprend très très bien, elle lui parle plus de son désordre d'infidélité, elle lui parle de liturgie. C'est très étonnant comme passage. Vous irez voir dans le chapitre 4 de Saint Jean comment la question vient alors qu'on dit mais quel rapport quoi ? Pourquoi est-ce que d'un coup elle lui parle de liturgie ? Il n'y a pas de rapport en fait qu'on pourrait penser alors qu'il est assez direct, je pense, dans le cas de cette femme. Et bien ça, c'est Jésus, c'est ça qu'il fait. Il la met devant la vérité de sa vie pour que finalement, elle lui révèle un autre problème qui est au cœur même de ce qu'elle est. Alors, ce message évangélique, qu'a-t-il de plus spécifique ? En quoi il nous engage ? Alors ça, c'est une citation du pape. Il est nécessaire, c'est un message qui est nécessaire, unique, irremplaçable, il ne souffre ni indifférence, ni syncrétisme, ni accommodation, car c'est le salut des hommes qui est en cause. C'est une sagesse non pas de ce monde qui suscite la foi par lui-même. Il est la vérité, c'est le message, il est vrai. Il mérite que l'apôtre y consacre tout son temps, toutes ses énergies, il sacrifie au besoin sa propre vie. Je trouve que c'est très fort, vous voyez. Le message de l'Évangile, il peut nous conduire au martyr. C'est au témoignage de la vérité. Ouais, c'est pas rien de dire ça. On n'est pas en train de faire une publicité. On n'est pas en train de raconter une petite histoire gentillette. On doit annoncer un message qui est unique, nécessaire, nécessaire au salut, qui doit être vrai et qui peut nous conduire au martyr. Vous voyez, je pense à Saint Vincent de Paul quand il trouve cet enfant, ce bébé devant son église sous la neige l'hiver et qui le ramène dans sa communauté auprès de la fondation des Premières Sœurs. Il y a des bourgeoises, des aristos et quelques Premières Sœurs. Et tout le monde sait que cet enfant, c'est le fruit de la prostitution. Et Vincent est avec cet enfant et il le donne à une sœur et la sœur ne veut pas le prendre. Vous connaissez ce passage de sa vie ? Et la sœur baisse les yeux. Et Saint-Vincent dit « Madame, prenez cet enfant. » « Non, monsieur. » Et Vincent lui dit « Pourquoi est-ce que vous refusez de prendre cet enfant ? C'est le fruit du péché, il doit mourir. » C'est le fruit du péché, il doit mourir. C'est le fruit d'une prostitution, un bébé de la prostitution. C'est le fruit du péché, il doit mourir. Et la réponse de Saint-Vincent de Paul, qui est magnifique, du tac au tac, il dit « Madame. » Quand Dieu veut faire mourir quelqu'un pour son le péché, il envoie son fils. C'est ça extraordinaire comme réponse. Quand Dieu veut faire mourir quelqu'un pour le péché, il envoie son fils. Une espèce de vérité d'un message qui est donné, quoi. Enfin, elle le reçoit pas, et Monsieur Vincent, il lâche pas l'enfant, il le garde. Quand Dieu veut faire mourir pour le péché, il envoie son fils. C'est ça qui est au cœur de l'Évangile, c'est que le Christ vient pour nous sauver. Il ne vient pas pour nous épanouir, pour nous réaliser sur cette terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça non plus, mais ce n'est pas ça. Vous voyez, si Jésus était venu uniquement pour nous rendre la vie commode, ce ne serait pas un message, je dirais, nécessaire, unique et remplaçable. On avance. Donc ça précise un peu d'une certaine manière cette place du Christ. Et donc là, le pape va passer à la deuxième partie, enfin au premier chapitre, c'est-à-dire le Christ évangélisateur à une église évangélisatrice. Comment cette vie du Christ va transformer la vie de l'église ? Donc il va reprendre ce qu'est le Christ, pour montrer que parce que le Christ est comme ça, l'Église est comme ça. Cette grande phrase que vous connaissez, là où passe la tête, le corps doit passer. Il y a la tête doit passer par le corps passe par où est passée la tête. Là-dessus, hein, vous pouvez voir, c'est certains papes qui a des phrases très très fortes là-dessus. Hein. Qu'est-ce qui définit la mission du Christ? D'abord, voyez, le Christ lui-même se situe comme un serviteur d'un message qui le dépasse. C'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est au début de l'évangile de Luc. Que ça permet en parallèle avec le passage du prophète Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Donc le Christ lui-même se situe comme un envoyé. Il est envoyé par quelqu'un. Ça, je vous dis tout de suite une conséquence de ça, c'est que dans l'Église, on est envoyé. On ne se choisit pas sa mission. Quelle qu'elle soit, aussi capables soyons-nous, il y a un moment, on est envoyé par l'Église. Et c'est ça qui garantit la dimension évangélisatrice, ce n'est pas nos capacités, c'est l'envoi. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus est envoyé par le Père pour annoncer l'accomplissement des promesses et de l'alliance proposée par Dieu. Il est envoyé par le Père. Qu'est-ce qui compose l'activité, donc comme agir du Christ, l'activité évangélisatrice de Jésus? C'est tous les aspects de son ministère. Toute sa vie est évangélisatrice. Tout son agir. Y compris quand il respire, quand il mange, quand il marche. Toute la vie du Christ est salutaire, elle sauve. Quand le Christ marche sur cette terre, il sanctifie le cosmos. Quand il respire, il sanctifie l'univers. Il le rend saint, il le sauve. Et un jour, on verra la conséquence de cette respiration du Christ sur la terre. C'est très incarné, hein. Donc, le Saint-Père insiste, il dit, c'est tous les aspects de son ministère, l'incarnation, les miracles, l'enseignement, le rassemblement des disciples, l'envoi des 12, la croix et la résurrection, la permanence de sa présence au milieu des siens. Enfin, toute cette vie, tout ce qu'il est une activité évangélisatrice. Elle participe du salut. Vous voyez, nous, on aurait tendance, et c'est pas rien, parce que vous allez voir que ça a une conséquence sur l'Église très forte. Sinon, on réduirait, on dirait, ben, le Christ, c'est la parole qu'il a donnée, et en fait, on réduit l'Église à sa prédication. Non, c'est tout le problème aujourd'hui qu'on rencontre dans l'Église, c'est que toute sa vie est évangélisatrice. Et si un aspect de sa vie n'évangélise pas, ben, c'est raté, quoi. C'est pas à la hauteur de la tête. Ça, c'est essentiel. Quelle référence biblique nous permet d'affirmer que Jésus est le tout premier et le plus grand évangélisateur? Il est le premier. Il est l'évangile de Dieu. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Il a été jusqu'au bout, jusqu'à la perfection, jusqu'au sacrifice de sa vie. Jésus, c'est l'évangile de Dieu. C'est la bonne nouvelle, c'est le salut, il est tout cet homme, c'est impressionnant d'affirmer ça. En quoi l'impossibilité d'établir une synthèse sur l'évangélisation de Jésus peut-elle être positive? Vous interrogez le pape. Vous voyez, parce qu'on aimerait bien nous réduire, ou le réduire à ce qu'on en comprend de l'évangélisation. Ça nous arrange. Parce que de toute manière, faire ça, ça limite à ce que nous comprenons nous-mêmes dans notre propre action qui est partie de l'évangélisation. Mais non. Et le Saint-Père dit, c'est pas possible de faire une synthèse. Il est impossible de concevoir dans une synthèse le sens, le contenu, les modes d'évangélisation tels que Jésus l'a concevé et l'a réalisé. cette synthèse ne pourra jamais être terminée. Si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, retenir les livres qu'on écrirait. Il n'y a pas de synthèse possible pour l'évangélisation, la vie évangélisatrice du Christ. Ça n'est pas possible. Donc, la conséquence, elle va être forte pour l'Église. Ce ne sera pas possible non plus de réduire l'évangélisation à tel type d'activité. Et qui est le grand modèle de l'évangélisation que nous a laissé l'Église dernièrement parmi les saints, à votre avis? Non. Il y en a plusieurs, mais il y en a un que l'Église nous dit, voilà, ça c'est... Non. Ben, vous le savez, parce qu'elle nous est donnée par l'Église. Thérèse, la petite Thérèse. Et je trouve qu'elle est très reflet de ça. Parce que Thérèse est patronne des missions. Or qu'elle n'a jamais quitté son Carmel, et elle a plus ou moins servi la sacristie, fait des brodures et 3-4 poèmes, plus ou moins bien, dans son trou de Lisieux. Vous voyez, ça renvoie au Christ qui dit, voilà, c'est toute sa vie qui est évangélisatrice. C'est ça qui est incroyable chez la petite Thérèse. Quand Jésus dit, si vous avez donné un verre d'eau à l'un des miens, qui sont les... vous avez donné un verre d'eau en mon nom, ben ça, c'est ça, c'est l'évangélisation. Et la petite Thérèse, elle rejoint ça, quoi. Je pense que Thérèse avait très bien compris ça. Donc, la conséquence est la suivante. Cela nous envoie à la personne du Christ lui-même. En fait, l'évangélisation, la compréhension que nous avons de l'évangélisation nous renvoie à la personne de Jésus. Et point barre. Et la relation à la personne du Christ, elle est unique pour chacun d'entre nous. Et c'est pareil pour l'Église. Réduire l'évangélisation à quelques spécialistes de l'évangélisation, on a beaucoup fait ça dans l'Église. On est passé de l'action catholique, il y avait les paroisses, l'action catholique s'occupait de l'évangélisation. Bon, on voit où ça nous a conduit. Après, on est passé de ça, il y a eu les spécialistes de l'évangélisation et les comités nouvelles. Les paroisses géraient le tout commun et eux, ils géraient les convertis. Voilà, ben, on s'aperçoit aussi que ça n'a pas tout à fait fonctionné comme on espérait. Parce qu'en fait, il n'y a pas de synthèse possible, on ne peut pas ramener l'évangélisation à un aspect. Non, c'est vrai pour le Christ, c'est vrai pour l'Église. Je regarde l'heure, il nous reste 10 minutes. Hein. On va beaucoup avancer, mais ce n'est pas grave. Oui, je pense que ça, c'est très important. C'est Jésus qui est l'évangile de Dieu. Jésus, le Père, il a parlé dans Jésus. C'est son évangile, sa personne. L'évangile, c'est la personne du Christ. Et tout ce qui nous est proposé, et Saint Jean insiste, pour dire, si l'on écrivait une à une, le monde entier ne pourrait contenir. C'est-à-dire que, en fait, Saint Jean dit ça pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à la bonne nouvelle que de vivre de sa personne. C'est très déroutant, mais c'est très rassurant. Parce que la manière de percevoir une personne par une autre, elle est toujours unique. Et nous, on aimerait bien réduire l'évangile à telle ou telle vision, à tel ou tel texte, à tel... Non, ben, c'est pas possible. Le pape dit ça. Et il prend ça comme quelque chose de très bon, c'est pas réducteur, on peut pas faire de synthèse. C'est toute sa vie, c'est tout son être qui est cet évangile de Dieu. Alors, quel est l'évangéliste privilégié par le pape pour décrire le règne de Dieu selon le Christ? Alors, lui, le Saint-Père dit, c'est Paul VI, hein, que l'évangile par excellence de l'évangélisation, c'est l'évangile de Matthieu. Le reste est donné par surcroît, seul c'est le règne est absolu, quoi. Alors je vous ai mis les références pour aller voir pourquoi ils parlent de ça. Ils font là-dessus sur plusieurs textes. Quel est le cœur de cette bonne nouvelle? Le Christ annonce le salut. ce grand don de Dieu qui libère surtout du péché et du malin, et aussi de tout ce qui opprime l'homme dans la joie de connaître Dieu et d'être connu de lui. Alors là, le Saint-Père parle du malin, parce qu'il y a un peu une tendance. Vous êtes dans Notre Père, quand on dit Notre Père, c'est délivrez-nous du malin. C'est ça le terme amalo. En latin, c'est amalo, c'est le malin. C'est donc la personne du mal. Enfin, c'est pas le mal comme concept. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, même dans l'Église, qui, il y avait un super des Jésus, je crois, qui disait que le mal n'existait plus, le malin. Ben si, hein, dans la foi, ça fait partie du contenu de l'Église, ça. Dans Notre Père, c'est l'Église. Je crois, hein, délivrez-nous du malin. C'est un esprit, enfin, c'est une personne, le malin. Il agit et il veut détruire. Et le Christ lutte contre l'annonce pour l'annonce du salut. Pour nous libérer du différent mal, il y a le mal de notre propre péché, de la tentation et du malin. On a un ennemi. Cela commence avec le Christ, le cœur de la bonne nouvelle, ça commence avec le Christ, et ça sera dans l'histoire réalisée à son avènement. Il y a un début, il y a une fin. L'évangélisation, elle a un début, elle a une fin. Elle commence avec Jésus, elle termine avec son retour. Il y a un terme. Vous voyez, on n'est pas dans une espèce de truc sans fin qui finira jamais. Non, non, il y a un terme, c'est l'avènement de Jésus. Ce fait, dans les retraductions du missel, là, je trouve que c'est encore plus fort. Plusieurs fois, on dit beaucoup avec son retour ou dans son avènement. Ou... Trois fois dans les liturgies de l'Église, on appelle le retour du Christ. C'est ça que le chrétien attend. Le chrétien, il attend son retour. Et dans l'évangélisation, je pense que c'est important de dire ça aux gens. Le Christ va revenir pour justifier ce monde, hein, le rendre juste, le rendre saint, le juger, mais au sens de la justification. Comment peut-on recevoir le salut et le règne de Dieu ? Recevoir le salut, c'est une grâce et une miséricorde. Recevoir le salut, c'est une grâce et une miséricorde. Et pourtant à conquérir par la force, par la fatigue et la souffrance, par une vie selon l'Évangile, par le raisonnement et la croix, et l'esprit des béatitudes. Ce n'est pas une partie de plaisir, l'annonce du salut, et la réception du salut dans nos propres vies. Il y a la part de la croix. Et l'esprit des béatitudes. Moi, je pense que c'est essentiel, ça. Vous savez, quand on a refait le socle commun pour les différents niveaux de catéchisme, moi j'ai beaucoup insisté là-dessus pour qu'on remette bien les béatitudes au cœur de l'Évangile. C'est la clé, hein, les béatitudes. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Paul II. Les béatitudes sont la clé de l'Évangile. C'est la clé. Donc la clé, ça ouvre la porte. Or, souvent, les chrétiens, au mieux, ils connaissent le credo. Au mieux, ils connaissent les 10 commandements, mais c'est rare que un chrétien soit capable de vous citer les béatitudes. On les connaît de manière un peu abstraite. Or, je pense que c'est essentiel. Parce que ça, c'est profondément Jésus. C'est, le Saint-Père, Jean-Paul II dit ça, c'est la clé de l'enseignement du Christ. Voilà la clé. C'est pour ça qu'on peut faire un examen de conscience à partir des béatitudes. On peut relire sa vie à partir des béatitudes. C'est un chemin de vie, les béatitudes, hein, qui va de la béatitude des pauvres, hein, à celle de la vérité en injustice jusqu'au martyr. Moyennant un total renversement intérieur, voilà, on accède au salut par une métanoïa, une conversion radicale, un changement profond du regard et du cœur. Il faut qu'il y ait une nécessité de conversion dans nos vies, de changement. Le mot est concret, c'est se retourner. Dans la liturgie ancienne, pour le baptême, c'est ce qu'on faisait. On commençait la liturgie tournée vers le soleil, et après, au cours du baptême, on se tournait vers Jésus, vers l'Est. Et physiquement, on se tournait. trouve que c'était très fort liturgiquement pour comprendre qu'il y a une métanoïa, vraiment il faut se tourner, il faut changer de soleil. Il faut passer du soleil au Christ dans nos vies. C'est pas facile, hein. Mais bon, c'est une grâce, hein. C'est une miséricorde de Dieu. C'est Dieu dans sa miséricorde qui nous fait vivre cette conversion. Les béatitudes ne sont-elles pas gardiennes d'une conversion évangélique ? Ouais, moi je pense qu'il faut revenir beaucoup plus aux béatitudes. Vous voyez, s'il y a une chose à faire, c'est lire les béatitudes tous les jours. Le matin ou avant de dormir, avoir ce texte là chez nous. Comment peut-on qualifier la prédication de Jésus ? Alors, le Saint-Père précisera, il s'agit d'un enseignement nouveau qui est donné avec autorité, Marc 1, 27. Ce sont des paroles pleines de grâce, Luc 4, 22. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme, Jean 7. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Ces paroles dévoilent le secret de Dieu, son dessein et sa promesse, et changent le cœur de l'homme et son destin. Voilà. C'est important de comprendre que ça change le destin de l'homme. Le Christ qui change le destin de l'homme. Il est fait pour le règne, pour le salut. C'est une parole nouvelle, un enseignement nouveau. Il y a une autorité, vous voyez. Et Jésus, quand il veut faire comprendre son autorité, parfois il fait des miracles ou des choses comme ça pour nous faire comprendre que sa parole est efficace, quoi. Elle est donnée avec autorité, mais avec efficacité. Vous voyez, pourquoi le Saint-Père fait ça ? Il fait ça parce qu'il prépare ce qu'il va dire sur l'Église. Parce que l'Église n'est qu'un contre-jour, si je puis dire, de ce qu'est le Christ. Pourquoi les signes ont-ils leur importance dans l'évangélisation de Jésus ? Pourquoi des signes ? Les signes, dans la vie du Christ, font la stupeur des foules. Ils entraînent vers lui pour le voir, l'écouter et se laisser transformer par lui, spécialement les petits. Le signe le plus fort étant que les petits et les pauvres sont évangélisés et deviennent ses disciples. Ça veut dire que c'est le signe par excellence, que les petits le suivent. Les autres signes, à côté de celui de la présence des pauvres, les malades guéris, l'eau changée en vin, le pain multiplié, la résurrection. Vous voyez, nous, on aurait mis ça devant, quoi. On n'aurait pas mis ça en premier. Cela se finalise dans sa mort, sa résurrection et l'envoi de l'Esprit de vérité. Je vous envoie un autre paraclet, dit Jésus dans l'épître, dans l'évangile de Jean. Quel est le signe par excellence pour l'évangélisation de Jésus ? Le signe par excellence, dit-il, c'est que la communauté devienne... Oui ?
Non, vous n'avez que
3 minutes. 3 minutes. Ben, on finira ce chapitre 1, puis c'est tout. La communauté, à son tour, devient évangélisatrice parce qu'elle proclame, allez proclamer la bonne nouvelle. Il s'agit de communiquer ce qu'on a reçu et de le diffuser. C'est pour ça que la communauté, elle devient signe, parce qu'elle devient celle qui diffuse ce qu'elle a reçu. J'espère qu'on va avancer. Il me reste... Alors, on va terminer là-dessus. Ça fera comme une dimension conclusive. Je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. Numéro 15. Voilà. Donc l'Église est évangélisatrice à partir de ce que le Christ est. Et là, le Saint-Père va développer 5 dimensions qu'il a qualifiées d'intimes, qui sont liées les unes entre les ailes et qui permettent, dit-il, d'évaluer la qualité évangélisatrice de l'Église à la suite du Christ. Les communautés, chaque capacité à communiquer le fait de la bonne nouvelle. Alors il y a 5 dimensions, puis on terminera là-dessus. L'Église d'abord naît de l'action évangélisatrice de Jésus et des 12. C'est son fruit normal, quoi. Jésus a fondé l'Église. Donc, il avait un but. C'est que son message se poursuive dans l'Église, dans les disciples. La diffusion du message est donc essentielle. Il forme les disciples. Il y a l'adhésion des nouveaux baptisés. Donc le nombre de sauvés augmente. C'est une des joies de l'Église, des nouveaux fils. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, né de la mission, l'Église est envoyée à son tour par Jésus. Voilà. Jésus est envoyé, l'Église est envoyée. Elle naît du Christ. Ça, c'est essentiel, hein, dans cette deuxième dimension. Elle est le signe de la présence de Jésus. Elle prolonge la mission du Christ. Elle la continue dans une vie intime selon quatre fondamentaux de la première communauté chrétienne. Voilà. Si l'Église veut être évangélisatrice, elle doit respecter quatre choses. Être fidèle à l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, au partage. Fidèle à l'enseignement des apôtres, fidèle au partage, à la prière et à la fraction du pain. Cette vie devient témoignage et se fait prédication et annonce de la bonne nouvelle. Oui, ce n'est pas non plus n'importe comment ce que dit le pape ici. Il y a ces quatre dimensions-là. Oui.
La fraction du pain, ça remet pas au partage. Est-ce que c'est fraction du pain dans le sens de partager?
Non, non. La partage, c'est la charité fraternelle ici.
Et alors, c'est pas la fraction du pain ici.
Ben, c'est l'Eucharistie.
Ah, ben, c'est ça, d'accord. Partage, ouais.
Mais le Saint-Père les distingue parce que souvent on confond. Non, c'est pas la même chose. Et la charité fraternelle, c'est l'amour de nos frères, quoi, de ceux qui nous sont proches. L'Église commence par s'évangéliser elle-même. Elle se renouvelle par la conversion et la relation constante sur les trois vertus théologales. Voilà. Communauté de croyants, communauté de l'espérance vécue, communauté d'amour. La communauté est dans les vertus théologales. C'est une communauté de foi, une communauté d'espérance et de charité. C'est beau cette expression de parler d'une communauté aux vertus théologales. C'est ça que dit le pape ici. Et ça, c'est assez fort. Ouais. Elle revient toujours à la parole, aux grandes œuvres de Dieu, à l'écouter, tentée par les idoles. Elle a toujours besoin d'être évangélisée pour rester crédible, pour gagner fraîcheur, élan, force missionnaire. C'est pour ça que la lecture de la parole de Dieu, moi je pense en communauté, est de plus en plus essentielle. On essaie avec les fraternités missionnaires, on essaie de mettre, on voit bien qu'aujourd'hui la communauté ne peut pas vivre uniquement du sacrement de l'Eucharistie. Le fait qu'il y a quatre dimensions à vivre. Donc, vous voyez, ces quatre dimensions, elles doivent être retrouvées dans toute communauté. Voilà. Et c'est pour ça que c'est. Aujourd'hui, on le sent bien, puis je pense que le monde nous conduit à ça. C'est qu'on ne peut plus se contenter d'une communauté qui se réunit le dimanche pour la messe. Ce n'est pas suffisant. Parce que ce n'est pas dans son essence, en fait. Pour vivre du Christ, on ne peut pas se contenter de ça. Mais là, c'est marqué clairement, quoi. Jérôme Saint-Père insiste pour parler des quatre dimensions qu'on avait et puis des cinq dimensions intimes.
Et le pape François parle d'aller aux périphéries, d'ailleurs.
Oui, oui, c'est un aspect. Mais celui-là, tout le monde l'a en tête aujourd'hui. Mais lire la parole de Dieu, c'est quand même moins fort. Parce qu'aujourd'hui, le mot périphérie, ça devient un peu galvaudé, quoi. Enfin, tout le monde dit ça, on ne sait plus à quoi ça correspond. Finalement, il y a tellement de périphéries qu'on ne sait plus où est le centre. Et là, on revient au centre. Il n'y a pas de périphérie, il n'y a pas de centre. Et le centre, on vient de vous le donner avec les quatre premiers aspects. Là, qui... voilà. Après, on a toute notre manière de vivre, d'approcher la parole de Dieu, ça c'est sûr. Hein. L'Église, je termine par ça, hein, les cinq. L'Église est dépositaire de la bonne nouvelle annoncée. Donc elle a une responsabilité par rapport à ce qu'on disait au dépôt de la foi. Donc c'est essentiellement, si on veut le résumer, au credo. Hein. Qu'elle doit préserver pour le communiquer, pas pour elle. Un trésor intact à transmettre, évangéliser, c'est transmettre intact le contenu de l'évangile. Elle est envoyée et évangélisée, c'est les deux. Et l'Église elle-même envoie ses évangélisateurs. Les évangélisateurs n'ont pas à transmettre leurs idées ou leurs personnes, ils ne sont pas propriétaires absolus de l'évangile, ça c'est essentiel. Voilà, on va terminer là-dessus. Comment ? Elle met dans leur bouche la parole qui sauve. Un évangélisateur, il dit la parole de Dieu. Alors vous savez, c'est presque parfois, on rigole parfois un peu, mais dans certains mouvements évangéliques ou protestants, ils vous citent, mais c'est parfois un peu une mémoire, mais ils vous citent tout le temps la parole de Dieu. Ça fait partie de ce qu'est l'évangélisateur, c'est normal. Sa référence, c'est la parole de Dieu. elle leur explique le message dont elle est dépositaire. Elle leur donne le mandat reçu elle-même. Et elle envoie prêcher et transmettre avec une extrême fidélité. Voilà comment, eh bien, elles sont envoyées les évangélisateurs. Voilà. C'est le dernier point du chapitre 1. On va terminer là. On aura fait un chapitre.
C'est pas grave, vous avez tout. On pourra quand même donner tout le diaporama.
Oui, oui. Peut-on questionner ceux qui se réclament du Christ mais ne veulent rien savoir de l'Église? C'est une question intéressante, hein. Là, le saint-père veut dire que c'est pas possible, quoi. On ne peut pas séparer la tête et le corps, ça s'appelle une décapitation. Parce que c'est une tendance aujourd'hui. Il y a un lien profond entre le Christ et l'Église et l'évangélisation. C'est sa tâche qui ne peut pas s'accomplir sans elle, encore moins contre elle. Qui vous rejette, me rejette. Qui rejette l'Église, rejette le Christ. Luc 10. Aussi imparfaite soit-elle, qui rejette l'Église, le Christ, l'Église rejette le Christ. C'est fort, hein, comme phrase. Pas rien de dire ça. Hein. Comment vouloir aimer le Christ sans aimer l'Église? Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Ephésiens 5. Ben, le Christ, il aime l'Église. Hein. Aimons-nous l'Église comme le Christ l'aime? En quoi cet amour joue un rôle essentiel dans l'évangélisation? Vous savez, le père, je ne sais pas si vous vous souvenez du père Launay, avec sa petite soutane, là.
Ah oui.
Il parlait comme ça.
Quand il voyait, il disait, « Bonjour, comment vous allez? Oh, quel plaisir de vous voir !» Il était à une conférence à Nantes avec l'abbé de Nantes. Alors, l'abbé de Nantes a vu ce prêtre arriver avec sa soutane, donc il s'est dit, « S'il a une soutane, il est forcément de mon parti. » Ben, t'es content de m'écouter. Alors l'abbé de Nantes fait son discours, et puis après il demande à l'abbé Launay de monter, parce qu'il disait s'il a une soutane, c'est qu'il pense comme moi, etc. Alors l'abbé Launay monte sur la scène, et puis il regarde l'abbé de Nantes et lui dit, après une heure et demie de conférence, il lui dit, comment est-ce qu'il lui dit Je viens vous écouter pendant une heure et demie, et il lui dit, pourquoi vous critiquez votre mère? Je dis ça simplement. Pourquoi vous critiquez votre mère? Vous n'aimez pas votre mère? C'est parti. Il a juste dit ça, ça fait un effet meuf. Pourquoi vous critiquez votre mère? Vous n'aimez pas votre mère? Mais c'est tout. Je trouve ça, mais incroyable. C'est... Il était très drôle. Il lui a dit ça simplement. Pourquoi vous critiquez votre mère? Bon, on a fait la première partie, mais ce que vous pouvez retenir de ça, c'est que quand on comprend le Christ, on saisit en contre-jour ce qu'est l'Église. Avec les cinq intimes, là, que vous verrez, qui, à mon avis, est le...
Là,
comment ?
C'est un pilier, je pense.
Oui, c'est ça le pilier, c'est vrai. C'est ça qu'il faut un peu retenir et travailler après. Ces cinq intimes avec ces quatre dimensions qui sont propres à la communauté, hein, qui me paraissent les conditions de faire de notre vie une vie d'évangile, quoi. Un évangile de Dieu. Parce que, et je conclurai là-dessus, ce que nous sommes appelés à faire, c'est à notre tour d'être évangile de Dieu, quoi. Voilà, c'est toute notre vie.
Modestement.
Modestement.
Bon, merci beaucoup. Merci. Alors, pour retrouver le document, vous tapez, donc vous allez dans l'onglet du site du diocèse, formation, vous tombez sur la page Athénée. Et sur la page Athénée, il y a différentes façons d'y accéder. Mais la plus simple, c'est, vous voyez, il y a des petits logos en bas de la page. Et à droite, il y a documents participants. Cliquez sur documents participants. Après, il y a Athénée 1, Athénée 2. Vous êtes sur Athénée 2. Et il y a les différents parcours. Vous cliquez sur votre parcours, puis pour la mission. Donc, le code pour clé pour la mission. Je vais vous l'envoyer. Je crois que c'est. En fait, c'est DOCS, DOC, en minuscule, tiré du 6. Et je pense que j'ai une clé. C-L-E-S. Je vous redis ça, c'est le seul dont je ne suis pas sûre. Parce qu'en fait, pour les autres, j'ai mis des initiales. Des initiales, des parcours. Je vous redis ça.
Merci.
Mais Oui, je vais vous le mettre la semaine prochaine, je vous mets le diaporama de liberté.
On a
le
droit à un
tampon,
ou pas?
Oui, bien sûr. Tu as le tampon, sinon on va te... Est-ce que tu peux annoncer le prochain cours, Hortense?
Oui,
parce que je crois qu'il y avait une... Non, c'est à Ploermel.
C'est Ichon du diocèse avec le père Jean-Henri.
Il n'y a pas eu une permutation avec un autre.
Ah, alors attends, je sais.
Oui. Non, bah alors on verra un mail. Parce qu'il y a une permutation entre les réseaux sociaux.
Très bien. Donc évangélisé par les réseaux sociaux, oui. C'est en janvier, c'est ça?
Oui, plus mail, le 8 janvier.
D'accord,
c'est bien. Évangélisé par les réseaux sociaux.
D'accord, entendu.
Mais on sera plus dans la pratique.
Oui, alors on sera prêt, les réseaux sociaux, ça sera très pratique.
Voilà, on va faire théorie pratique, même si on a bien entendu.
Très bien, allez.
Merci. Alors le petit tampon, est-ce que...
Là, le petit tampon. Merci beaucoup, bon retour à vous tous.
Oui, le ouais. Petit tampon.
Je ne vais pas trop traîner parce que j'ai un rendez-vous avec l'évêque à l'autre côté du diocèse. Hein. Merci. Hein.
Ah,
bah,
c'est celui-là, je me suis
trompé. Ouais.
Bon,
ben,
c'est pas grave.
Merci, bon dimanche matin.
Est-ce que vous avez eu toutes les livrettes d'avant? Vous avez eu est-ce que vous avez eu
Merci beaucoup.
Voilà, ceux qui n'ont pas eu, je donne.
Si, moi j'ai distribué.
Oui, j'imagine, voilà. C'est très bien d'ailleurs.
Pardon ? C'est très très bien, que j'ai même envoyé à mes enfants à Paris.
Oui, ben, il faut. Hein,
j'ai mon fils, lui, le fait là-bas, et j'en ai profité.
Ah, ben, allez-y.
J'ai envoyé ça avec les présents Saint-Nicolas pour les enfants. Je m'appelle Nicolas, donc. Et on a fait un certain temps en Allemagne.
Oui.
Où là-bas, c'est
très... Saint-Nicolas.
Donc, disons que la Saint-Nicolas, la Saint-Nicolas, on le porte plus là-dessus pour les cadeaux.
Ouais,
on se réserve Noël
pour
la famille et la vie de tous. Il y a quelques cadeaux, mais l'essentiel, donc ça a été envoyé en même temps et j'en ai profité pour leur donner.
Bien fait, c'est bien. Alors, il y a une ou deux petites coquilles qui sont passées, mais il y a toujours. Hein, voilà. Ah, j'ai vu dans la parole de Dieu, on a fait la copie collée deux fois.
Oui,
bon, c'est un petit
détail, hein.
Mais bon, on en aura toujours. Mais
bon, là, par contre, j'espère qu'ils vont voir, parce que c'est dur de suivre en même temps.
Oui, et vous l'avez. Ah, s'il y a un problème, si vous êtes inscrit, quelle formation? Par contre, pour la mission?
J'en ai plein, je même pas. Non, parce qu'elle va dire, moi, je mettais pour celle-là.
Oui.
Pour celle-là, parce que si je
m'en Mais vous revenez, il n'y a aucun problème, parce que comme cette année, c'est la première année, effectivement, c'est assez réduit hein, comme participant. On la maintient pour la rôder aussi, pour voir après le ressenti, qu'est-ce qu'il faudra maintenir l'année prochaine ou pas.
Ça permet de pouvoir participer un peu plus.
Oui, tu vois, là, ça va un petit peu, on est à l'aise, hein, pour poser des questions.
Il m'a fait un truc, je dis ça, je trouvais ça magnifique. En fait.
Un petit, voilà.
Il m'a piqué mon crucifix avant. Et je lui ai jamais
demandé. Vous avez deux minutes, hein, pour
regarder. Oui, mais
ça ne dure pas trop longtemps.
Ça ne dure pas trop longtemps. On va regarder son petit jus du
cas. C'est travaux à.
Il l'a pris. Je l'ai envoyé au père Antoine, parce que ça m'a fait rire. Et là, il veut faire un truc incroyable.
Ah.
C'est très, très, très mignon.
Ah, bah, c'est bien, hein, puis, les enfants. Hein,
ah oui,
c'est... Dans le cœur.
Ah oui, là, j'avais fait les deux, puis en fait, ils ont intervenu en
école. Au revoir, Gina, et à bientôt. Et puis, on s'appelle, si tu veux, pour la pré-hermès.
Ah oui,
merci. Ça, tu vois, je pense qu'on est du même coin.
D'accord,
allez, au revoir. Au revoir,
je ne pas la petite.
Ah, je disais de pré-hermès.
Oui, là j'ai fait les deux qui sont réunis en une seule.
Oui.
Et je me demande, et en fin de compte, je me demande si c'est pour remplacer, je ne vais pas me remettre sur la partie évangélisation.
Ben, si vous pouvez rester avec nous, c'est très bien, ben, ça nous fera un
truc. Ah ben, non, moi je reste.
Vous restez avec nous à chaque fois, il n'y a pas de problème, elle a les coordonnées.
Je suis inscrit. Hein,
votre nom c'est
Nicolas.
Monsieur Nicolas, ouais. Et votre prénom alors
Jean-Jacques.
Jean-Jacques Nicolas. Oh, d'accord.
Non, en fait, bon, là, je ne suis pas rentré dans le détail, en fait, ce qui s'est passé, moi j'ai mon. Bon, j'ai eu une vie, puisque j'étais militaire auparavant.
Oui.
J'ai failli rentrer dans les ordres étant jeune. Mmh. Malheureusement, j'ai eu quelques déboires. Enfin, c'est vrai que j'ai encore failli. On n'a pas le temps de passer à ça. Donc, au lieu de prendre le goupillon, j'ai pris le sabre.
Oui.
Voilà, souvent on dit ça. Et puis, donc, je me suis marié. Mon épouse est décédée il y a 3 ans. Et suite à ça, je suis parti sur Compostelle.
Oui.
Et durant ce voyage à Compostelle, comme je l'ai dit, j'ai été rattrapé par le Christ.
Voilà.
Et qui m'a pas dit, viens avec moi, à un moment donné, en réunimance, il m'a dit, je t'attends.
Oh là là.
La dernière fois, ça a été, maintenant, je t'attends. Et voilà. Et ce qui fait que j'ai repris, parce que j'avais, au début, je faisais pas mal de scoutisme, j'ai été délégué départemental pour le Morbihan.
On est toujours là, attends, j'arrive, Michel. J'arrive.
Oui, j'ai été délégué départemental pour le Morbihan pendant 5 ans avec mon épouse.
Oui.
C'est à l'époque Monseigneur Gauvès. C'est là, lui, qui m'avait déjà proposé à cette époque-là, éventuellement, de rentrer dans le diaconat avec mon épouse. Et bon, l'activité militaire, oui, c'était difficile de dire le colonel, il est devant et puis derrière, etc. Oui. Et cette interpellation, si j'ose dire, m'a fait tout remettre, comme on dit, on remet tout à plat.
Il faut y aller. Hein.
Et voilà, et j'ai dit, j'y vais.
Ah oui, il faut y aller.
Donc je suis re-rentré dans la paroisse. Là maintenant, je fais. Je suis, entre autres, je fais partie des équipes de service de l'église. D'ailleurs, j'ai un enterrement dans 2 heures et demie, puisque là, je m'occupe en particulier des obsèques et le service de l'Eucharistie. Et puis voilà, alors je m'en suis ouvert au père du Père Christophe à Clermel.
Guégan.
Oui, c'est ça, puisque c'est le cœur de mon paroisse. Voilà, et puis, là pour l'instant, je fais du travail de sacristain, je fais du chant quand je peux, je fais des lectures. Par contre, c'est vrai que depuis un an maintenant, tous les matins, je suis levé à 5 heures, je fais ma lecture des heures, je fais. Voilà. Mais je n'ai pas eu, d'appel officiel venant de Monseigneur me disant tiens, est-ce que vous voulez, voilà. Mais je me dis, dans le cadre de ma formation,
vous mettez dans le discours,
il est nécessaire de reprendre tout le.
Si vous êtes en retraite, là, donc.
Voilà. Alors, ça là, c'est. Je suis arrivé à le dire, qu'est-ce que j'ai, mais. Mon père, à 70 ans, on peut être diacre. Il n'y a rien qui dit le contraire. Hein,
Alors, il faut être appelé.
Pardon
il faut être appelé, je crois, au diaconat, mais bon, là, vous allez voir. Seigneur, si.
Moi, j'ai dit, du coup, voilà.
Servir. Je crois qu'il faut servir. C'est un beau parcours. Moi, je suis rentrée à 45 ans, là, vérifiez. Donc, j'ai eu une vie avant aussi. Hein. Donc, je trouve que c'est beau parce que le Seigneur, il nous donne une deuxième chance. Enfin, non, pas vous, parce que vous avez une épouse et des enfants. Mais pour moi, pour ce qui me concerne, j'ai eu la deuxième chance de pouvoir rentrer en religieuse. Hein. C'est célibataire. Donc, je me dis, il nous rattrape, comme vous disiez. Hein.
Ah oui, c'est ça, mais voilà, je vous dis qu'il nous rattrape.
Voilà. Et donc, moi, je coordonne le projet missionnaire de César, et maintenant, on m'a demandé de coordonner la pastorale du tourisme. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu.
Moi, je connais un petit peu, mais je vis un peu le.
Oui, ça peut. Voilà, peut-être qu'on aura des occasions de se rencontrer.
Ouais, pourquoi pas.
Hein, voilà.
Bon, j'ai vu qu'il sortait par là.
Oui, donc vous allez par là.
Ah oui, c'est vrai que c'est le dernier qui ferme.
Oui, là, je vais voir avec la dame qui fait la
fête. En tout cas, passez un bon week-end.
Merci, vous aussi, bon
dimanche. Que la machine rentre.
Ben oui, moi, alors la prochaine fois sera chez vous.
Oui, tout
donc
à fait.
C'est bien, vous avez de la chance.
Ah ben c'est comme ça que j'ai rattrapé, puisque là, dans cette série-là, la première course, c'était l'homme.
Oui.
Et il s'avère que la semaine dernière, il y avait ce cours qui était donné sur un autre.
Oui, voilà, c'est ça. Donc bon,
sur une autre version, ce qui fait que ça m'a permis de me. Comment ben de...
Parce que quand j'ai fait en sorte qu'il y ait des cours un peu où il y avait eu Athénée, hein, c'est-à-dire Lorient, Vannes, Pernelle et Pontivy. C'est exprès que.
Ah oui, c'est pas, c'est pour ça. C'est
il y a pour tout le monde. Allez, bon retour.
Bonne journée, bon week-end.
Merci
beaucoup.
Les
livrets, vous les avez distribués, vous en avez assez?
Oui, il y en a assez.
Est-ce que le lundi c'est ouvert ici ou pas? Parce que lundi matin je viens avec une sœur qui a un rendez-vous pour ses yeux, elle a perdu un œil, à côté là, en face, chez Drummond. Et après elle a un rendez-vous à l'hôpital, mais dans l'après-midi. Qu'est-ce que je vais faire avec elle?
Le lundi et le matin, en principe, je suis là moi lundi matin.
Ah, toi, t'es là lundi matin?
Oui, mais pas tout le temps.
Hein.
Pas tout
le temps.
La journée,
pas tout le temps. Ouais. Je sors par où?
Ouais, je
vais aller pour l'aide d'abord. Ouais, je vais aller pour l'aide.
Après,
je vais attendre à l'hôpital, je pars dans 15h.
Je
pars
dans 15h.
Elle part donc 3h d'après-midi.
Ah, bah oui,
je vais aller. Ah, bah non, mais je vais trouver une solution parce que j'ai mon sac qui est à clé. Je vais aller à clé.
Avec le sac, c'est confit, sur un haut, en bas.
Non, parce que. Bon, à la limite, si ça avait été que jusqu'à midi, ça collait, mais tu vois.
Non.
Après, Ouais,
parce que quand je viens jusqu'à midi, il n'y a personne au presbytère. Et après, ils ont pas, c'est leur journée, c'est normal. Donc, si je veux, à partir du midi, non, moi je serai juste autour du repas.
Et l'après-midi, je serai là parce qu'il y a des réunions ici.
Toute
l'après-midi, je serai là à partir de 2h.
Écoute, je vais voir avec mon frère si je peux aller. Sinon, je passe à bout de temps ici avec elle et je vais me faire voir. De toute façon, ce sera ouvert ici.
Là, je serai à partir de 2h, donc c'est pour moi.
À partir de 1h30
de l'après-midi.
Voilà,
de l'après-midi à Paris.
Et le matin, tu es là aussi?
Bah, je serai là, oui, mais
on peut pas.
Non, non,
ouais, d'accord, mais je vais voir avec elle. Non, mais je vais aller chez moi. Ah, sinon, je vais
l'après-midi. Voilà, je vais au portable.
Voilà, après, je vais aller.
D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. En fait, c'est bien.
Oui. Non. En tout cas, le salle était très adapté, bien. Et puis, très bien. Tout s'est bien passé, la technique aussi. Bon, il y a une patinoire. Je vais faire ce que j'ai vu la patinoire ce matin. Non, comment je fais? Où je vais?
Ils m'avaient dit qu'ils avaient enlevé les... Non, ils ont enlevé toutes les barrières qu'on mettait autour de l'église, ça c'est vraiment...
Et alors, ce que j'ai fait tout à l'heure, heureusement, je suis allée à la grille parce qu'il y avait deux qui ne savaient pas.
Bah oui, mais pourquoi pas faire les réunions là? Oui, c'est sûr. Parce qu'ils ont dit, on va prendre 26 personnes, on va pas, je ne vais pas chauffer le groupe.
Alors, je ne sais pas les autres groupes, combien ils ont.
Il y en a pas plus.
Il y en a plus, parce que
j'ai pas. C'est pour ça que j'ai envoyé un temps.
Alors, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai levé la grille, c'est juste
que j'ai rabassé. Et là, moi, j'ai envoyé un temps en disant, mais personnes, c'est trop long pour 5-6 personnes. Donc,
merci Michel, et bonne journée à toi. Thank you.